Gameblogueuse, Gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog, le podcast 354. Avec moi aujourd'hui, Julo,
salut,
Carole et
hey.
Romain.
Mathieu.
Aujourd'hui, comme la semaine dernière, nous allons revenir sur l'actualité de la semaine. On passe immédiatement d'ailleurs au sommaire, n'est-ce pas Julo?
Bien sûr.
Merci Julo. Oui, c'est Julo à la sono aujourd'hui, c'est un fait exceptionnel.
Pas du tout, c'était chez moi la dernière fois, enfin il y a deux semaines.
Aujourd'hui nous allons parler de
je vais te casser
Black
ton sommaire,
Ops
je vais
3
parler en même temps.
Carole a eu l'occasion d'y jouer et elle va nous expliquer
rapidement, hein.
Pourquoi
7 minutes.
Pourquoi c'est, oui. C'est vachement bien, ou pas d'ailleurs, hein, on n'en oui. sait rien. Nous allons revenir ensuite sur un peu un créneau un peu plus enfantin, un peu nostalgique avec le Dragon Ball Z Extreme Butoden et Transformers Devastation que nous avons eu l'occasion de tester cette semaine avant de partir dans la partie un peu plus rock'n'roll avec Rock Band 4 que nous allons pouvoir comparer un tout petit peu à Guitar Hero Live que nous n'avons pas encore testé mais auquel nous avons joué un tout petit peu. Et pour rester dans le rock'n'roll évidemment nous allons parler pour finir de Vincent Bolloré qui a des parts aujourd'hui chez Ubisoft et Gameloft. Vous allez voir, ça risque effectivement de secouer pas mal avec l'ami Vincent Bolloré. Mais maintenant, je me tourne vers Julo.
Ah, déjà, c'est déjà moi.
Ouais, car nous allons parler de ce qui a winné cette semaine. Et qui c'est qui l'a winné cette semaine, mon cher Julo?
Alors, le win de la semaine revient à Key Hero Games. Mm-hmm. Donc, c'est un studio camerounais que nos amis gameblogueurs...
Tu veux dire Key Hero Games?
Key Hero, qu'est-ce que j'ai dit?
T'as dit Key Hero.
Ah oui, alors c'est pas
le
Kiro.
Voyage de Kiro, ouais.
Non, c'est ça.
C'est un peu
non, non.
Ça, ouais.
C'est bien Kiro Games et c'est un studio camerounais qui développe un RPG depuis maintenant un bon bout de temps et d'ailleurs,
c'est
comme je vous le disais, les game bloggers le connaissent bien a priori parce que on les a soutenus dès le départ. Alors avant même ce live, ils ont ouvert sur Gameblog un blog VIP dans lequel ils révélaient les secrets de leur développement en montrant des vidéos, des images. Le studio, les gens qui travaillent, etc. Bref, c'est un jeu qui avait évidemment pas des moyens illimités et qui a donc décidé de lancer un Kickstarter. Mm-hmm. Kickstarter qui prend fin dans 4 jours, mais qui a atteint, et c'est bien là le win de la semaine, la
son
valeur
objectif,
de 40 000 euros. Voilà, c'était l'objectif.
Le premier objectif, parce qu'il y a encore des paliers.
Exactement. Alors, c'est le premier objectif, 40 000 euros, qui permet au développement tout simplement de continuer et au jeu de s'assurer une sortie prochaine. Donc, ça, c'est déjà un win et c'est une bonne chose. Et effectivement, comme tu disais, donc le studio Kiro avait placé d'autres objectifs. En l'occurrence 75 000 euros, donc là c'était pour faire venir Paul Burton et Didier Chanfroy respectivement ex-Bungie et ex-Delphine Software,
des game designers
qui viendraient filer un coup de main au jeu. Alors bon, il reste 4 jours comme je vous disais.
On au est... moment où nous enregistrons, oui absolument,
ouais,
au moment où
nous enregistrons, ouais, c'est
et
ça.
Et où vous écoutez, regardez,
ils en sont à 43 000 euros, donc malheureusement
compliqué.
Ça va être très compliqué, ouais. Mais avec l'appui du podcast de Gameblog et de ce win de la semaine, ouais. Peut-être l'atteindront-ils. Il y avait également un autre.
Absolument.
Un autre,
bah on compte
absolument.
Sur vous, hein, membre premium.
Il y avait un autre palier à 100 000 euros qui permettait de débloquer une potentielle version PS4.
Oui, parce que pour l'instant, il n'est prévu que sur PC.
Que sur PC, voilà. Mais en tout cas, bravo à eux. On est vraiment contents pour eux.
Ah bah oui.
Donc félicitations et c'est le win de la semaine pour donc ce jeu qui s'appelle Orion, parce que je l'ai toujours pas
c'est
dit
beau,
depuis tout à l'heure.
C'est, vrai.
C'est un RPG donc qui est basé sur
la mythologie
les légendes, voilà, africaines.
Ça change hein, quand même. Hein.
Bah oui, voilà,
ça
c'est quelque chose
peu,
dont
ouais.
on n'a pas l'habitude et c'est très bien. Donc Orion, l'héritage des Kori Odan, c'est le titre de ce jeu. C'est sur Kickstarter. Si vous voulez ajouter vos petites pièces vous-même et peut-être le faire décoller vers son prochain palier Kickstarter d'ici la fin.
C'est tout ce qu'on lui souhaite, voilà. En tout cas à ce jeu. On salue Olivier Madiba qui est toujours très actif sur Twitter pour soutenir son jeu et nous faire un petit coucou au passage.
Voilà, on vous salue les amis.
Alors évidemment la vie n'est pas faite que de win.
Non, il y a aussi des choses moins
reluisantes.
Alors, oui. Qu'est-ce que j'ai fait
presque,
encore
presque bah, désolé que... de me tourner vers toi
bah,
pour
écoute,
ce fail.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise
c'est pas sympa,
sur moi que ça tombe.
Carole
c'est pas
arrive
très sympa.
Et on lui file le fail.
Surtout que j'ai fait une prise de sang ce matin, je me sens faible.
Ouais.
Je
tu te sens fail.
Fragile.
Tu
me
vrai,
sens
tu fail. Fragile. Tu
sens
si fragile que Drake
je
ou pas
je me sens fail. Oh, ouais. Mon petit Drake.
Ouais. Ah, tu l'aimes bien, Drake?
Ah, bah oui.
C'est vrai?
Ouais.
Ah. Autant chez Marmour, c'est ça, je savais.
Chez Marmour.
Ouais, je savais, Drake, je savais pas.
Chez Marmour, c'est quand même. C'est difficile de pas l'aimer. Je pense que nos auditrices seront d'accord avec moi. Mais effectivement, un fail qui vient de chez le FN.
Ouais, du Front National.
Du Front National, donc. Et de la campagne de Christophe Boudot, qui a subtilisé une image vidéoludique qu'on connaît bien, puisqu'il a utilisé le personnage de Little Mac, le personnage donc de Punch-Out, un jeu qui m'a fortement marqué sur NES. D'ailleurs,
mais là, c'est
l'artwork, oui. Absolument. Et donc, il a repris donc, le personnage pour sa campagne, une campagne qui s'adresse aux jeunes et qui a choqué quand même pas mal de monde. Alors moi, ça me choque profondément pour deux choses. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi. Je pense
d'abord,
que...
c'est du vol et du plagiat.
Alors première chose, tu m'as volé mon argument.
Mais en revanche, moi, je tiens à dire que c'est bien. Il y a des trucs qui sont bien trouvés.
C'est bien utilisé. Ouais. C'est bien utilisé parce qu'effectivement, ça vise les jeunes, donc ça nous parle effectivement. Puis le côté punch,
c'est surtout,
en fait, faut foncer, faut y aller, le jeu de mots.
Il y a le jeu de mots effectivement avec
avec la licence jeunesse
avec Boudot, ça fait jab. Et jab, c'est le nom d'un coup à la boxe, évidemment.
Exactement.
C'est un coup, c'est le coup pour maintenir à distance.
Voilà. Exactement. Voilà. Donc c'est bien trouvé, c'est intelligent, mais une fois encore, c'est du plagiat. Et puis,
du plagiat.
C'est le plagiat. Exactement. Et j'aime bien, j'ai une façon de prononcer certains mots. C'est comme Advanced Warfare, j'aime bien. Call of. Mais c'est vrai que c'est les premiers à pointer du doigt les jeunes, la population. Il ne faut pas pirater, il ne faut pas utiliser des images sans autorisation, etc. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu, on fait ce qu'on veut, finalement. Hein, on est des politiques, donc on fait un peu ce qu'on veut. Si on nous dit que ce n'est pas bien, on les retire des réseaux sociaux.
Ça s'est un peu popularisé, on a pu voir l'image un peu plus. C'est Canosaurus Rex
sur Twitter qui a
fait le comparo. Et effectivement, ça c'est parti comme une traînée de poudre. Et du coup, ils ont retiré ça, mais ultra rapidement.
Et puis finalement, derrière, ce n'est pas très grave. Et autre chose qui est encore plus grave, je trouve, c'est que les politiques ont tendance à très facilement pointer du doigt le jeu vidéo. Le jeu vidéo rend violent, le jeu vidéo c'est pas bien, c'est un média qui est quand même
mais Photoshop c'est bien.
Et on peut utiliser des personnages de jeux vidéo pour une campagne politique, donc c'est un petit peu, je trouve que c'est un peu culotté.
Moi, si tu veux mon avis, le candidat en question là, Christophe Boudot, n'avait aucune idée que son boxeur sur l'affiche c'était un artwork de jeu vidéo.
Je pense que c'est le designer de l'affiche
qui est arrivé, qui a dit voilà ce que je vous propose. Il a fait c'est canon avec le jeu de mots et tout, c'est super, allez on y va.
Effectivement, il a peut-être...
alors qu'en fait il savait pas du tout que c'était un
il a peut-être tapé sur Google effectivement boxeur image forte
ou alors le mec qui a fait l'affiche lui savait, il connaissait l'artwork de Punch Out, mais c'est le candidat en lui-même, je suis pas certain qu'il soit,
je trouve que c'est dommage parce que si j'étais candidate, à la limite, tu vois,
je trouve que c'est dommage parce que j'étais prête à voter pour lui.
J'étais prête à dire non, pas vraiment.
Mais
je trouve que c'est un peu dommage, effectivement.
En politique, c'est un truc qui arrive super souvent, pas forcément en termes d'image, mais aussi en termes de musique. Souvent, on entend parler de musiciens qui se plaignent que leurs chansons soient utilisées pendant des meetings.
C'est arrivé, je crois, il n'y a pas très longtemps avec le FN, encore une fois.
Oui,
aussi,
aux États-Unis, c'est arrivé avec Donald Trump qui a demandé à Donald Trump d'arrêter d'utiliser ses chansons.
Aussi, c'est plein pour The End of the World qui voulait pas.
Ouais, mais ça arrive sans arrêt. Ils s'approprient des trucs comme ça.
C'est plein aussi de mon interprétation de leur chanson dans Rock Band aussi.
C'est vrai. Tu nous développeras cette news.
Enfin bref, c'est assez courant qu'il y ait des soucis à ce niveau-là.
Mais là, c'est quand même un peu. Je trouve que ça va. Voilà, c'est un peu. Ça va un peu loin, surtout quand c'est le FN, forcément. Ça peut faire.
Le vol, ça reste du vol, peu importe qui le fait.
Bien sûr, mais exactement. Quand c'est le FN et quand c'est du jeu vidéo.
Voilà,
en plus,
comme brûler les voitures, c'est pareil.
C'est exactement ça.
Bon,
voilà.
On va arrêter avec cette petite parenthèse politique.
Ouais, exactement.
On va retourner sur quelque chose d'un peu plus joyeux. Romain. On va parler du chiffre de la semaine, mais quel est-il ?
Je vais dire que c'est la première fois de cette nouvelle saison que je fais le chiffre de la semaine, et sans mon petit générique juste prix, je me sens un peu nu, tu vois. Ouais. Je ne vais pas m'exciter comme je le faisais la saison précédente. Donc en fait, le chiffre de la semaine, c'est 20 ans.
20 ans de quoi ?
20 ans de quoi ? En fait, c'est un joueur japonais affirme que sa Super NES est allumée de manière ininterrompue depuis 20 ans. Alors pourquoi ? Les joueurs qui ont moins de 20 ans justement ne se souviennent peut-être pas, mais à une époque on pouvait pas toujours sauvegarder dans nos jeux.
Tu nous parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Et c'est un joueur apparemment assidu depuis plus de 20 ans du jeu Umiara Kawase.
Une série de jeux de plateforme qui paraît-il est assez connue au Japon.
Voilà, un jeu de plateforme, et lui en l'occurrence c'est le premier épisode de la série sorti fin 94 au Japon. Et donc pour pas perdre ses données, ses résultats, ses sauvegardes, etc. sa progression, il n'éteint pas sa console depuis 20 ans.
Mais alors, il avance comment dans le jeu? Je veux dire, c'est, il a jamais, il a pas retouché depuis 20 ans, c'est pas possible.
Bah moi en fait, j'ai beaucoup
jeu,
de mal.
Un moment, ça se finit.
Ouais, ou peut-être après qu'il y a du scoring, tu sais, la rapidité pour terminer les niveaux, etc. Moi personnellement, j'ai quand même beaucoup de mal à le croire. Parce que tout le monde peut le constater, des coupures de courant, ça arrive au moins une fois dans l'année.
Parce que c'est un mec qui a juste voulu faire une déconnade sur Twitter.
Il a très certainement voulu faire le buzz.
Oui, je trouve l'anecdote mignonne.
Je sais pas s'il l'a fait sciemment.
Mais en plus, c'est un jeu.
Je me suis dit, tiens, je vais être repris par tous les sites de jeux vidéo.
Ça sent le pipo.
Ben, le truc, c'est que c'est un jeu si particulier, alors que ça s'invente. D'un côté, je me dis, ça s'invente pas.
C'est qu'il n'y a pas de pile de sauvegarde dans ce jeu.
Bah, sur Super NES, il y avait plein de jeux où t'avais pas de.
Oui, je sais, mais vraiment, si c'est.
Les années 90,
en général, dans les jeux très longs, etc., où t'as besoin justement de. S'il a eu besoin de faire ça, c'est que c'est un jeu long, et dans les jeux très longs comme ça, sur Super Nintendo, il y avait en général des piles de sauvegarde.
Ouais. Pas toujours, tu t'avais des codes.
Moi, je pense que c'est
un
système de codes.
Mais à ce moment-là, il arrive à ce moment-là sur GameFAQ et il nous emmerde plus. Voilà.
Mais après, c'est vrai que c'est assez étonnant, et en même temps, quand ça vient du Japon. Bah, plus rien ne m'étonne. Et c'est vrai que tu te dis, même si tout le monde a des coupures de courant, bah, on peut imaginer qu'au Japon, ils sont tellement réglo, ils sont tellement regardants, que tu peux te dire, bah, peut-être que ce mec a pas eu de coupure de courant, il a laissé sa console bien rangée. Il a fait attention et il a laissé tourner pendant 20 ans. Puis la Super NES est quand même une console.
Donc toi, t'aurais tendance à le croire.
Super résistante.
Ouais, parce que
j'aurais tendance à avoir le doute, à ne pas tout de suite condamner, à dire c'est de l'intox.
Ah, moi je condamne pas, je trouve que c'est une belle histoire, j'aimerais bien que ce soit
tout
vrai.
Tout à fait, moi aussi.
Mais il y a quand même beaucoup de choses qui me font douter. Et j'ai quand même du mal à croire qu'une Super NES puisse tourner pendant 20 ans non-stop sans cramer.
Ça fait 180 000.
Je sais plus, il a donné
le chiffre.
C'est quand même énorme. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas?
Ce moi je pense qu'il a fait ça pour voir son histoire adaptée au cinéma par Spielberg ou un truc comme ça.
C'est possible.
À mon avis.
En tout cas, s'il l'a fait pour faire
bon
le
scénario,
buzz,
ouais.
Voilà,
le film super
il l'a fait sciemment. Mais comme dit Romain, effectivement, le jeu est pas un jeu super connu.
Ouais.
Bon, à la limite, fais-le sur un jeu connu, tu vois. Si tu veux faire le buzz, non. Là, c'est un peu bon.
Bah, le fait que ça soit pas un jeu connu, c'est peut-être aussi ce qui pouvait contribuer à donner de la crédibilité à son histoire.
Absolument.
Je sais pas.
Bien réfléchi.
J'aimerais vraiment y croire. Mais j'ai quand même un gros doute.
On aimerait tous y croire.
Et ben, en parlant d'y croire, Carole, on va se tourner vers toi, évidemment, pour parler de Black Ops 3. Call of Duty Black Ops 3. Est-ce qu'on doit y croire?
Call of Duty, c'est beau. Eh bien moi je suis fan de la licence, donc on pourra crier que je suis une vendue et tout ce que tu veux.
Non, mais t'inquiète pas, ils le feront.
De toute façon. Eh bien oui, absolument. J'ai pris un gros chèque avant ce podcast et je vous le dis.
Ah bon?
Ça va, un gros chèque.
Et tu partages pas avec les potes?
Ça
c'est moche.
Déjà que j'attends toujours le million de Julo.
Exactement. Alors,
est-ce
que t'as pu essayer de Black Ops 3?
Alors moi j'ai pu tester le multi, bien évidemment. Il y a des mois de ça, on en avait parlé sur Game Boy.
Et là c'est le solo.
Alors j'ai pas pu jouer très longtemps, effectivement. On a eu une présentation du mode zombie, effectivement du mode solo, qui a été très intéressante, mais on a pu mettre les mains dessus que 6 ou 7 minutes. Mais quand je te dis 6 ou 7 minutes, je déconne pas, hein, c'est
d'accord.
Vraiment ça.
Juste sur le mode zombie ou sur le mode zombie
solo,
et sur la campagne?
Solo.
Donc que
juste
la campagne,
solo,
pas
la campagne, pas le zombie.
D'accord.
C'est un solo, mais il y a quand même de la.
Alors
de
on
la
a
co-op,
joué en coop,
ouais,
puisque effectivement, hein, cet épisode pourrait être joué en coop jusqu'à 4 joueurs. Et là, on a pu jouer donc à 2 dans une phase hyper nerveuse,
avec un
gros casting dans le mode zombie. On aura notamment Goldblum.
Jeff Goldblum,
absolument.
Il y a Ron Perlman aussi, je crois, non?
Absolument, qui jouait donc alors Goldblum dans Jurassic Park.
Dans tout.
La mouche. Voilà,
et dans un épisode de Friends qui est pour moi
dans
New York, resté gravé dans
que je ne l'ai jamais
New
vu
York
cet épisode
judiciaire aussi.
Et que Jeff Goldblum dans Friends est génial.
Moi je l'adore, hein. Voilà, après les noms des autres stars
Ron Perlman, Hellboy, évidemment.
Voilà, exactement.
Pacific Rim, moins glorieux.
On a un joli parterre de stars, donc pour les voix des personnages qui feront le scénario, qui joueront dans le scénario du mode zombie, qui va apporter pas mal de choses, qui se déroulent dans les années 40.
Il y a quoi comme nouveauté justement avec ce mode zombie?
Alors dans ce mode zombie, il y aura les bonbons, les fameux bonbons, la machine à chewing-gum. Et ces chewing-gums en fait vont vous donner des atouts, donc ça sera aléatoire, vous pourrez pas choisir quel bonbon vous allez mâchouiller.
Comme dans Harry Potter, on peut tomber sur le bonbon que vous vomit dès le premier truc.
Et c'est un petit peu ça. Et donc ça va donner tout un tas de, comment dire, de capacités assez particulières pendant. Alors certaines pourront durer tout le temps. Ce sera
Permanent.
permanents et d'autres seront provisoires. Donc ça, je trouve que c'est intéressant, c'est assez original comme idée. Et après, vous verrez que dans ce mode zombie, donc qui se déroule encore une fois dans les années 40, on va rencontrer des gangsters. Alors il y a un scénario qui est assez étoffé. On
dans
a des personnages
40.
Dans les années 40, voilà.
Ah, tiens. Donc il n'y a pas de super armure et de trucs comme ça. Donc.
Voilà, c'est plutôt, il y aura plutôt des monstres assez ridicules d'ailleurs. Uh-huh. On aura, je reviens sur les bonbons, la possibilité de se transformer en monstre à tentacules. Enfin, c'est assez coloré, c'est très burlesque hein, comme ambiance. Et tous les personnages, vous voyez, on a un boxeur également. On aura également
noir.
Le Shadowman hein, qui sera là un petit peu dans l'ombre. On ne sait pas trop de quel bord il est. Mmh. Et puis voilà, tous ces personnages sont torturés, cachent de sombres secrets et donc vont s'allier, vont se retrouver réunis pour lutter contre les
donc
monstres et les zombies.
Il
y a vraiment voilà, une histoire dédiée à ce mode zombie. Je pense que ça va être intéressant. Malheureusement, je n'ai pas pu poser les mains dessus, mais j'ai pu jouer effectivement au solo qui était... qui m'a plongé hein, dans une séquence assez dynamique où il fallait effectivement passer d'un bâtiment enflammé à d'autres bâtiments enflammés via des tyroliennes électriques. Donc c'était assez dynamique, j'ai trouvé ça très beau.
Ouais.
On a terminé par une chute libre de je sais pas combien de mètres pour atterrir dans l'eau. Donc on sait hein, qu'on pourra effectivement avoir des séquences de combat sous-marines.
D'accord.
Donc là on nous a interdit on nous a repris les manettes.
Ah.
On n'a pas pu continuer, donc c'est bien dommage, mais en tout cas j'ai trouvé ça nerveux, j'ai trouvé ça dynamique, j'ai trouvé ça beau. Moi c'est vrai que j'ai adoré la
même sans les gadgets
les
qu'on aura dans la campagne solo.
Non mais là elle parle de la campagne solo,
là je parle de la campagne solo, je parle pas du multi
40,
hein.
D'accord.
Là elle est repassée sur la campagne sur la,
d'accord.
Je suis repassée sur
justement,
la campagne
dans cette partie là est-ce qu'il y a des grosses nouveautés?
Alors on aura les cybercorps bien évidemment
qui étaient déjà dans Advanced Warfare,
voilà, qui sont en fait des, c'est un petit peu différent dans Black Ops,
des cybercorps
absolument, ce sont des puces qui sont intégrés dans les soldats. Donc on va pouvoir se servir effectivement de capacités futuristes, mais sans utiliser finalement des outils futuristes.
Ah, il n'y aura pas d'armure en fait.
Exactement,
c'est ça.
Pas
d'exosquelette.
Pas d'exosquelette comme dans Advanced Warfare, effectivement.
Mais on pourra courir sur les murs, etc.
On pourra courir sur les murs, on pourra aller sous l'eau, on pourra dasher dans tous les sens, on pourra également donc utiliser des capacités. Qui vont nous permettre, alors ce sera les cybercorps, on aura des cybercorps de soutien,
donc, en fait, ils
de défense, d'attaque.
Ils ont enlevé les exosquelettes, mais ils sont toujours là en fait.
En fait, ils sont toujours là, on aura
les
doubles, les triples sauts, etc. Mais ce sera un petit peu différent puisque ce sont des capacités qui sont intégrées aux soldats. Donc moi, j'avais pu également jouer au multi, j'ai trouvé ça ultra dynamique. On va avoir aussi des spécialistes, de nombreux spécialistes, je ne me souviens plus exactement combien. Moi, j'en avais vu 4 lors de la présentation, mais il y en a de nombreux qui ont été dévoilé récemment, et ces spécialistes vont nous permettre effectivement donc de jouer avec des soldats.
J'allais dire c'est Patrick Devers et Gérard Lanvin, mais après
c'est un petit peu ça.
Quel film génial.
C'était fantastique. Donc notamment un personnage, je me souviens plus le nom de ce spécialiste, qui fait beaucoup penser au personnage d'Assassin's Creed, avec des arcs, avec des capacités et des armes donc de spécialistes. Donc ça c'est aussi intéressant. Je trouve que ce nouvel opus de Black Ops 3 amène beaucoup beaucoup de nouveautés.
Ah, moi le plus important. Le truc le plus important que j'ai envie de te demander, c'est au niveau de la réal, parce que on sait que c'est toujours développé sur PS3 et 360 en même temps,
tout
qui eux n'auront pas de mode solo d'ailleurs.
Absolument,
au passage,
c'est à souligner.
Mais du coup ça se ressent chaque
justement
non,
3
ou 4
fois c'est pas développé sur PS3
exactement, et là c'est un épisode vraiment nouvelle génération, et ça se voit et c'est beau, et honnêtement ce serait être mauvaise langue, de mauvaise foi, de dire que c'est pas beau. On a pu voir des images, vous avez pu le voir, même le mode zombie, je trouve ça beau. Je trouve que ça a du chien, je trouve que ça apporte pas mal de nouveautés. Et à mon avis, en tout cas pour ceux qui ont aimé les Black Ops, moi j'ai adoré les Black Ops, j'ai beaucoup aimé Advanced Warfare aussi. De toute façon, j'ai aimé aussi beaucoup les. J'ai adoré Modern Warfare 3, donc ça reste dans cette lignée, c'est nerveux,
c'est spectaculaire.
Voilà, c'est très spectaculaire de plus en plus, et justement on a un côté futuriste, mais qui est comme on le disait, qui est ancré dans les soldats, ce sont des nanopuces, ce sont des, voilà, donc on a moins cette impression d'exosquelette qui pouvait un peu énerver
un
les
peu
joueurs
trop
sur Advanced
peut-être.
Warfare. Voilà, on a le côté futuriste sans vraiment trop être futuriste. Ça se déroulera donc dans trois endroits, ce sera Singapour, le Caire et Zurich, il me semble. Les missions pourront être faites dans le désordre. D'ailleurs, les missions seront directement toutes débloquées sur, sur Netflix, enfin un peu comme sur Netflix.
Ah, ouais, exactement, ouais. C'est ce que un producteur avait expliqué que c'était.
Exactement, ils ont suivi
Netflix,
un petit peu.
On balance
exactement.
Tout d'un coup, on joue dans l'ordre que vous voulez.
C'est un petit peu ça. Donc, moi, je trouve que c'est un petit peu dommage, mais on va peut-être en débattre.
Mais, alors, pourquoi
après.
Ce serait dommage justement? C'est qu'une option.
Ben, c'est qu'une option, mais ce serait justement c'est dommage si tu choisis cette option. Je trouve que c'est dommage.
Attends, après, il y a une différence. Si tu regardes sur Netflix, par exemple, oui, ils te balancent tous les épisodes en même temps, mais tu vas pas les regarder dans le désordre.
Bah ouais, c'est ça.
Si tu recommences, si tu commences
à moins d'être complètement con,
voilà.
Je pense que dans un des bouquins où je suis déjà, où je suis déjà allé à la dernière page pour lire les dernières lignes avant même de commencer.
Mais il y en a plein qui le font.
Mais bien sûr.
Il y en a plein qui le font.
J'ai jamais fait ça.
Bah comme ça.
Pour te gâcher le plaisir.
Non, pour voir.
Non, parce que t'as trop envie de savoir ou tu veux.
Ça m'est déjà arrivé de faire ça pour.
Romain, la tronche de Romain.
T'es du genre comme Romain, je comprends pas.
T'es du genre à aimer les préquels, toi.
Ouais.
Moi j'ai horreur de ça. Moi j'aime bien voir ce qui se passe après, pas avant. Avant je m'en fous.
Ah non, mais une préquelle, pourquoi
donc,
pas quand
détestais,
ça fait des...
Donc tu détestais Columbo.
Non, mais attends, ça n'a rien à voir.
Tu n'aimes pas savoir à l'avance.
Une préquelle, ça peut se justifier, ça peut porter des éclairages à un truc que t'as déjà vu, etc.
Ouais,
là, aller à la dernière page d'un bouquin. Tu fais vraiment ça?
Ouais, ça m'est déjà arrivé.
Ça, moi,
et même d'un manga aussi, ça m'est déjà
arrivé. Et genre, Better Call Saul, t'as regardé le dernier épisode, et puis après t'es remonté en arrière.
Non,
fait un montage à la Pulp Fiction, t'as regardé les trucs dans le désordre et tout.
C'est des bonheurs, tellement bon Pulp
là,
Fiction.
Là, ça donne pas un peu le risque que les différentes missions fassent pas avancer le scénario? Parce que si tu peux les faire dans n'importe quel ordre, bah ça veut dire qu'elles n'ont pas d'influence sur le reste de l'histoire.
Ah non, ça veut dire que chaque mission doit être notée d'une certaine manière.
Et ça veut dire que
il n'y a pas de répercussions de l'une à l'autre.
Je pense que voilà, il n'y a pas de répercussions. Tu peux les faire dans n'importe quel ordre. Le scénario, de toute façon, se déroulera.
Ouais. L'idée, à mon avis, l'idée
de la même manière.
Qui veut le mettre en place, c'est, il l'expliquait dans leur interview. Imaginons, tu vas au boulot, il y a un pote qui te dit, putain, t'as joué à la mission 9, il y a un truc de ouf à l'intérieur. Puis là tu fais bah non, j'étais qu'à la mission 2. Ah ouais, mais là du coup faut que t'ailles vraiment la voir et tout. Tu rentres chez toi, tu joues la mission
9. Donc ça veut dire que le scénario on s'en tape totalement.
Voilà,
quoi.
Et bah, peut-être. C'est un peu ça, ouais.
Mais je pense qu'à mon avis il doit se dérouler effectivement, quel que soit l'ordre des missions, ça doit se dérouler de la même manière, où ça doit se goupiller de manière à ce que
après,
ça
si t'es intéressé
ça soit
que
cohérent.
Par le jeu, le challenge ludique.
Mais je trouve que les scénarios, enfin globalement les Black Ops sont très bons quoi.
Juste une petite question, parce que tu disais que la mission tu l'avais faite en coop. C'était
absolument,
du split ou c'était du chacun
non,
sur
non,
sa
non, chacun son écran.
Et est-ce que tu sais si ça sera jouable en split?
À mon avis, ça se fait plus
je
le split.
Je crois, mais je ne veux pas me faire taper dessus. Vous me corrigerez si je me trompe, que oui. Ce sera en écran splitté. Ouais.
Ah. Au moins à deux, quoi. Je pense que si c'est à quatre, ça sera
si
en
c'est à quatre,
console
c'est un peu
séparée,
compliqué.
Mais à deux.
Mais honnêtement, vous pouvez peut-être aller voir sur Gameblog, je l'avais peut-être notifié, mais alors là, je ne m'en souviens plus du tout. Mais je crois.
Si tu ne sais pas,
voilà.
Je t'invite
donc
à faire appel à tes sources, à tes sources et à me donner l'information.
Absolument.
Parce que ça m'intéresse.
Mais tu peux aussi aller sur Gameblog, c'est un petit site sympathique. Il y a pas mal de choses.
Et autre chose, juste une remarque comme ça, sans réel intérêt, mais je suis persuadé qu'un des personnages de la campagne de ce jeu a été basé sur Bradley Cooper.
Oui, il a une grosse ressemblance.
Il y a une ressemblance de lui là.
Ouais.
Attends,
c'est le même.
Si vous êtes prêts, vous le voyez à l'écran. Il est.
Alors
c'est quand le même
on voit
que
quand on voit qu'Ellen Page avait fait un petit caca nerveux quand elle avait vu les premiers artworks de Last of Us et qu'ils ont dû la changer presque à la dernière seconde.
Mais là, c'est compréhensible, c'était la même. Hein.
Je me demande, la ressemblance, elle est quand
c'est
même.
C'est quand même assez
dingo.
Elle est pas mal.
Là, je pense que Bradley Cooper, il a de quoi dire à Acti. Oh là, les gars.
Je pense pas que ce soit le genre. Mais bon, on peut toujours être surpris.
Tu disais parce que tu l'aimes bien, c'est ça?
Je l'aime bien. Mais j'ai adoré American Sniper.
Mais le truc, c'est que je suis étonné que ça fasse pas plus de bruit cette histoire.
Ça saute aux yeux. Attends, après.
Après, je pense que pour les Ricains, ils sont contents hein, quand ils sont dans un jeu vidéo.
Les Ricains, ils font des procès pour tout et n'importe quoi.
Non, moi, je pense qu'ils sont contents dans Call of Duty. Je pense qu'ils sont contents.
Vu l'oseille que
mais
ça soulève, je pense
ouais.
que l'utilisation non autorisée de son image.
Il ressemble, mais c'est pas sa tronche, il a pas son pif, quoi, tu vois. Il ressemble.
Bah moi là tu me dis Bradley Cooper a été modélisé dans le jeu, je te crois.
Hein. D'accord.
Et tu
faut
dis
que
ouais,
je regarde
c'est bien
de plus
fait.
Près, j'y vois rien là, je suis myope mais.
Ouais mais moi je trouve que c'est pas exactement la même tête mais.
Ouais.
Enfin bref, tout ça pour dire Black Ops 3
donc,
qui sort le 6 novembre prochain sur PS4.
Qu'est-ce que t'en penses,
rendez-vous
il ressemble ou pas?
Fais-moi oui de la tête. Le Call of
PC, PS3, Xbox 360, PC aussi hein, je suis pas fou.
Non, tu n'es pas fou.
Et sur PS3 et 360, il me semble qu'il y aura pas la campagne.
Ouais, mais il y a des gens qui sont scandalisés par ça, au contraire, c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire qu'ils ont développé le jeu véritablement pour la next gen et en plus ils se foutent pas trop de la gueule du monde. Certains diront pour une fois ou quoi, c'est pas ce que je dis hein, mais en l'occurrence le jeu va être moins cher. et tu auras un code pour télécharger l'épisode précédent.
Alors je me souviens plus pour quel épisode c'était, mais c'était il y a des années. Acti avait diffusé des statistiques d'utilisation de son Call of Duty
et il montrait
qu'il y a énormément de gens qui n'y touchent jamais.
Ils jouent
à rien d'autre. Alors oui, effectivement, t'as un mode de jeu de moins, mais d'une part, il y a quand même de moins en moins de joueurs qui jouent sur PS3 et 360.
Mais même sans ça, enfin, je veux dire, le jeu est moins cher.
Après, les stats sont
les trois quarts des joueurs Call of sont des joueurs.
Ils mettent le jeu moins cher pour cette raison, et finalement, ils proposent à ceux qui sont pas encore passés à la génération.
Au moins, t'as un truc.
Alors qu'ils auraient pu leur dire, bah fuck, c'est que sur les next gen. Ils proposent une version pour qu'ils puissent jouer au multi sur leur vieille console.
D'accord. C'est mieux que rien.
Ça ne scandalise pas, au contraire.
Bon, voilà. En tout cas, tes impressions, Carole, sont plutôt positives.
Pour
et
l'instant,
tu l'attends
c'est
comme une
dingue. Ben, moi, les Call of, tu sais, hein, chaque année, je me fais. Tu sais, j'ai une petite. J'ai une habitude, c'est que tous les ans, quand Call of arrive, avec mon meilleur pote, on se le chope, quoi, le soir même. En général, c'est à la soirée de lancement. Hein. Je chope ma version et on se fait la campagne Nuit Blanche, Call of.
Bon.
Voilà.
Bah, écoute, tu nous raconteras, je pense.
Exactement.
On va passer à quelque chose d'un peu moins. Oh, si, c'est tout aussi guerrier. Mais ça rappelle plus notre enfance. Hein. Notre enfance devant le Club Dorothée.
Ça rappelle notre enfance.
On va parler de. Julo. On va en parler ou pas?
Je sais pas si ton iPad répond, oui.
Bon, voilà, vous reconnaissez un peu la musique. On va parler de Dragon Ball Z avec Extreme Butoden qui est arrivé cette semaine. Qui arrive, pardon, le 16. Donc c'était bien cette semaine, oui.
C'est aujourd'hui,
au moment où nous enregistrons. Sur 3DS, c'est Arc System Works qui le développe. Ça fait quelques mois. Qu'on l'attend comme des dingues, parce qu'on s'imagine que c'est le jeu de baston ultime Dragon Ball après un comment il s'appelait déjà,
Xenoverse,
un peu moyennasse. On se disait
moyennasse,
parce que là on retrouve des persos en 2D super bien dessinés, avec des persos de soutien, mais de tous les côtés, quoi. Il y a tout le monde, quasiment tout le monde.
En fait, le truc, c'est que quand le jeu a été annoncé au Japon, c'était via Famitsu ou un magazine du genre, et là,
on voyait une centaine de persos.
Et là, voilà, on te montre une centaine de persos et on te montre des graphismes comme ça. Tu dis, oh putain, un nouveau, nouveau DBZ en 2D avec un roster de ouf. En plus, c'est Arc System Works, donc tu te dis, bon, ils ont du métier,
les
gars.
Fait Super Sonic Warriors, qui était un excellent jeu. Les deux premiers.
Oui, déjà, ils ont déjà bossé sur DBZ dans de très bons jeux. En plus, bon, ils ont de l'expérience en matière de baston, et là tu te dis, ah, ça y est, enfin. En plus, quand tu vois la centaine de persos, les artworks, tu te dis, ah ouais, ils ont été piochés super loin. Assez rapidement, tu te rends compte qu'en fait, bah, des persos jouables vraiment, t'en as que 25, dont 4 Goku.
Ah oui, quand même.
Donc voilà, c'est
et deux Vegeta,
deux Gohan.
Bon, en fait,
deux Gohan petit, deux Gohan adulte.
T'as fait le compte ou pas quand tu soustrais un peu les
doublons? Bah, t'en as une vingtaine, je pense. Une vingtaine, au même, un peu moins.
Ouais.
Et donc ça déjà, c'est un peu décevant, parce que même si à l'époque de la Super NES on avait 10 persos et on était content, on est en 2015 maintenant. Et quand tu vois que le dernier DBZ sur DS, de jeu de combat, sur DS, il y avait plus de 38 personnages sans compter les transformations, là tu te dis qu'ils se foutent un peu de la gueule du monde. Même si on sait que modéliser des personnages en 2D, c'est plus compliqué que faire des modèles 3D, mais malgré tout, c'est embêtant. Après, t'as un mode histoire, c'est un peu une honte, parce que t'as pas de scène cinématique, c'est juste des images fixes, des dessins fixes des personnages avec des textes en dessous, déjà traduits un peu de manière maladroite, un peu à l'ancienne. Justement, ça m'a un peu fait penser au jeu Super NES pour ça, avec une traduction un peu bancale, et une histoire inédite qui est pas vraiment intéressante, quoi, qui est super tirée par les cheveux, qui rime un peu à rien.
Mais alors
c'est ça qui fait baisser la note, parce qu'en termes de gameplay, moi je trouve ça très bien.
C'est vrai, c'est profond, enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses.
Les manipulations sont communes pour tous les personnages, mais t'as besoin de vraiment beaucoup de pratique, parce que t'as bien sûr les phases au sol, les phases dans les airs, mais quand t'es au sol, tu peux sauter malgré tout, donc tu peux faire des combos en sautant, tu peux faire des combos en faisant rebondir ton adversaire contre le coin de l'écran, tu peux faire des combos en faisant, par exemple, tu commences un combo avec ton personnage, t'appuies sur l'écran tactile, tu switches de perso en plein combo, l'autre perso continue, ensuite t'appuies sur le personnage de soutien qui lui va venir compléter le combo aussi. Si tu te mets à gérer, tu peux faire des combos de ouf. mais c'est vrai, ça va vraiment demander beaucoup de pratique. Et un autre truc qui est plutôt sympa, c'est que si vous vous souvenez des DBZ sur Super NES, et ben bah voilà, ce qu'on voit à l'écran par exemple, et ben bah au moment où tu balances une attaque d'énergie ultime, t'as une petite scène qui se déclenche et l'adversaire a un petit laps de temps si son énergie lui permet, bah pour répondre. Et là t'as des duels de boules de feu qui sont magnifiques, vraiment super bien faits. Et ouais, tous les personnages de soutien qui apparaissent à l'écran et tout, tu vois. Pour le coup, l'idée des personnages de soutien ne me gêne pas. Je trouve ça plutôt chouette, mais il fallait pas que ça se fasse au détriment du roster. En fait, ce qui aurait été bien, c'est que tous ces personnages-là, tu puisses choisir de les incarner directement ou de les utiliser en personnages de soutien et de faire vraiment le truc à ta sauce. En termes de gameplay, moi j'ai trouvé ça chouette. Alors c'est vrai qu'il y a des experts, des mecs qui vont faire les tournois de Street Fighter à travers le monde, qui vont peut-être trouver ça un peu moins profond, mais tous les gens qui jouent à des jeux de baston ne sont
déjà
pas...
si c'est les mêmes manips pour tous les personnages,
et tous les gens qui jouent à des jeux de baston ne sont pas des champions de Soul Calibur ou de trucs comme ça. Enfin,
tout à fait.
On n'a pas tous les mêmes attentes en matière de jeux de baston. Moi je suis avant tout un fan de DBZ avant d'être un fan de jeux de baston. Et je trouve vraiment qu'on peut s'amuser et on peut progresser, et c'est vraiment chouette. D'ailleurs, les personnages de soutien, vous les avez pas tous d'emblée, hein. Au début, vous en avez aucun. Il va falloir les débloquer dans le mode avec l'histoire alternative, justement en réussissant à atteindre le niveau Z. T'sais, vous avez une note à la fin de chaque combat, et un personnage de soutien se débloque en principe quand vous avez la note Z. Et ça, c'est super dur à avoir.
Bon, ouais, on peut le voir si vous êtes premium là, à l'écran, que il y a aussi
Butoden 2.
Butoden 2 qui est
alors ça c'est pour ceux qui ont précommandé
le jeu. Pour ceux qui ont précommandé Sonic.
Et histoire de pas se faire chier, peu importe où vous précommandez le jeu, vous avez la version japonaise.
Ah,
alors
bien,
que nous, on était le seul pays hors Japon à avoir eu le droit à une
localisation française
désastreuse, mais une localisation de Dragon Ball Z 2 à l'époque.
La légende Saiyan.
La légende Saiyan qui tourne sur la borne. La légende Saiyan, vous le verrez sur l'écran titre. Et donc, même si vous avez précommandé le jeu en France, vous aurez la version japonaise. Et autre détail qui a son importance, c'est que les musiques originales ont été retirées.
Quoi ?
Parce que Kenji Yamamoto, qui était le compositeur des musiques DBZ dans les jeux vidéo à l'époque, a été accusé de plagiat. Et il y a des affaires de plagiat nombreuses autour de lui.
Non, on dit plagiat.
De plagiat, pardon. Des affaires de plagiat. Et donc, pour l'effacer un peu de tout ça, ils ont supprimé les musiques. Alors,
et ils ont mis quoi à la place ? Des trucs bien
Des musiques plus génériques. Moi, les musiques de DBZ2 sur Super NES, je les connais par cœur et je les adore.
Bien sûr.
Forcément, si tu me les remplaces, ça fait moins bien.
C'est vraiment un truc que je comprendrais jamais, notamment pour Senseiya. D'ailleurs, on en a parlé. Puisqu'on a pu mettre un petit peu les mains dessus sur OTGS. Pourquoi vous n'utilisez pas les musiques
C'est des questions de droit.
C'est souvent des questions de droit.
Mais c'est quand même.
Enfin, ils les chopent les droits pour faire les jeux.
C'est quand même. Mais c'est ça.
Ah, voilà, attends.
T'as le droit de faire le jeu, d'utiliser l'univers, les persos, machin, mais pas les musiques.
Il y a deux cas de figure.
Pourquoi tout sauf les musiques ? Moi, je suis d'accord avec Carole, c'est un peu chelou.
Non, mais il y a deux cas de figure différents. Par exemple, dans les DBZ Sparking, qui s'appelait Budokai Tenkaichi chez nous, au Japon, ils avaient les musiques du dessin animé. Et quand ça arrivait chez nous, comme les droits des musiques n'étaient pas les mêmes que ceux des jeux, etc.
Ça dépend des territoires aussi.
On avait d'autres musiques. Mais là, dans le cas de DBZ, c'était des musiques créées pour le jeu. Donc là, c'est vraiment pour se protéger vis-à-vis d'éventuels procès, etc. Là, ils ont remplacé des musiques qui avaient été créées pour le jeu par d'autres musiques qui ont été créées pour le jeu et qui sont... En plus, c'est marrant parce que quand vous regardez l'intro modifiée, ils se sont inspirés de la musique originale. Ils ont essayé de faire un truc qui s'en rapproche un petit peu.
Avec mais les ça mêmes fait un peu... sonorités.
Voilà, ça fait un peu un peu tiep, malgré tout.
Mais, un peu tiep.
Donc, ce que je dirais en somme, c'est que les fans de DBZ peuvent passer un bon moment sur Extreme Butoden.
Ça a l'air d'être ce que tu retiens, surtout, malgré la déception.
En termes de gameplay et tout, vous allez passer un bon moment. Il ne faut juste pas trop en attendre du roster et pas trop en attendre du mode histoire. Mais en termes de gameplay, ça reste plaisant malgré tout.
Ok, écoute...
Mais c'est encore pas le jeu DBZ ultime qu'on attendait et qu'on attend toujours.
On l'aura un jour, on l'aura... pencher sur un autre jeu qui va nous ramener à nos souvenirs d'enfance, surtout Julo, non ? Toi, tu regardais un peu Transformers aussi quand t'étais petit ?
Bien sûr,
c'est vrai. Moi, je suis complètement passé à travers.
C'est vrai. C'est
évidemment. C'était après.
Ce qui est marrant, c'est que mon fils aujourd'hui regarde aussi les Transformers.
Mais tu m'as dit qu'il y avait un nouveau dessin animé, c'est ça ?
C'est pas vraiment nouveau, mais il y a un dessin animé moderne,
que j'aime pas trop. Ça, je comprends pas. C'est comme les Olive et Tom, la version 2000, je sais pas combien. Là, non, mais non. Pourquoi faire ça ?
Je savais même pas qu'ils avaient
proposé une suite, pourquoi
aussi,
pas.
Ouais, mais ils ont fait Scooby-Doo aussi, et Scooby-Doo c'est assez réussi, c'est très proche de l'esprit d'avant.
Mais les premiers Scooby-Doo,
sauf que ça fait moins peur.
Il y a un cachet fantastique.
Non, mais
il y avait une ambiance.
Tu savais que c'était un mec en masque de toute façon.
Ouais, à la fin, c'est pas grave.
C'est comme quand tu regardes un film, tu sais que c'est pas vrai.
Mais c'était les Scooby-Doo, les premiers Scooby-Doo, il y avait un cachet.
Enfin bref,
Transformers The Animation,
qui est sorti ce 6 octobre, que j'ai eu le privilège de tester à la rédac et qui est malheureusement pas un jeu génial.
Ça a failli être bon.
À moins d'être un super fan, peut-être.
De comment ?
À moins d'être un méga fan.
Quand on est gros fan de Transformers, on est plus qu'heureux parce que c'est l'impression de jouer à un épisode de 5 heures. Donc effectivement, c'est plutôt la plus grosse
réussite du jeu comme ça vu de l'extérieur et depuis le début qu'il a été annoncé, c'est le rendu quoi.
Le rendu est très très bon, vraiment c'est le dessin animé des années 80.
Visuellement c'est canon et ils vont en vendre grâce à ça, c'est sûr.
Et le fait est que Platinum Games qui travaille dessus donc a réussi à faire un système de combat qui est vraiment très bon, très efficace, peut-être pas aussi développé que celui d'un Bayonetta dont il s'inspire beaucoup parce qu'on retrouve le système de Witch Time de Bayonetta. C'est-à-dire que quand vous réussissez une esquive à la dernière seconde sur un coup adverse, le temps se fige et du coup vous avez un tout petit peu de genre une seconde où votre adversaire peut rien faire et vous pouvez l'arroser en utilisant donc la panoplie de coups ou encore un autre à la fin de votre combo un autre truc qui s'appelle l'attaque véhicule. Ça marche super bien. Le problème, c'est que autour de ces combats qui deviennent assez rapidement répétitifs parce que
ils ont simplifié.
Ils ont, disons, au niveau des ennemis. C'est on vous met deux ennemis d'un certain type, puis après on vous en met quatre, puis après on vous en met six du même truc suivant que tu avances dans une ville qui est ultra vide et il se passe rien du tout dedans. Et donc c'est vraiment des mécaniques de répétition à chaque fois des ennemis ou alors avec des boss qui peuvent être gigantesques comme je sais plus comment il s'appelle, Devastator je crois, qui est la réunion de plusieurs Constructicons. Et donc c'est des boss qui ont des barres de vie mais gigantesques. Si tu joues avec, si tu joues dans le mode de difficulté, le deuxième mode de difficulté, qui est un peu le mode normal, il s'appelle le mode guerrier en vrai, tu peux y passer des minutes et des minutes. Alors que lui, en un coup ou deux coups, il va te faire baisser ta barre de vie, mais ultra facilement. Que tu aies augmenté ou pas tes caractéristiques dans la zone un peu calme où tu peux modifier ton armement, changer tes stats, changer tes petits bonus que tu vas ajouter sur chacun des 5 persos. Alors évidemment, les 5 persos, c'est Optimus Prime, Bumblebee, il y a le dinosaure aussi, Grimlock, qui fait plaisir à beaucoup de monde parce qu'il parle à la troisième personne, un petit peu comme Nono dans les trucs de Groland. Et donc, il y a vraiment des bonnes intentions. Il y a une super base, en fait, pour faire un grand jeu, mais le truc c'est que à côté, tu te balades dans des environnements vides et ultra vastes qui sont pas très intéressants, qu'au bout d'un moment, tous ces combats ça se répète et puis t'en as marre quoi.
Mais
si t'es pas un gros fan de Transformers, c'est
cool mais c'est chiant.
Mais c'est tellement dommage. C'est tellement dommage que je regarde les vidéos que Poufy nous diffuse depuis tout à l'heure, c'est canon.
Mais ça franchement,
c'est pas mal,
t'y crois au début quoi. Surtout qu'en plus ils ont vraiment recréé vraiment un gros avantage encore pour ceux qui aiment le dessin animé, c'est que t'as des phases des cinématiques et ils te remettent le truc avec le logo Autobot Decepticon qui tourne en zoomant vers toi pour passer d'une phase Autobot à Decepticon quoi. Et ce qui est dommage aussi, c'est qu'il manque un multi parce qu'il y a des moments où on va se retrouver avec son perso et les 4 autres persos jouables mais dirigés par l'IA dans un gros bordel. Et là tu te dis, putain, s'ils avaient mis 2, 3 ou 4 joueurs en même temps, mais ça aurait été
en coop, tu veux dire,
coop. Enfin, déjà pour jouer avec ton môme par exemple, ça aurait été mortel, mais imaginons ça aurait pu permettre peut-être d'avoir un truc un peu plus étoffé aussi parce que là
tu vois ce que je me dis là, en regardant et en entendant ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, j'ai tendance à me dire que visuellement c'est un jeu qui s'adresse aux fans de Transformers des années 80, ceux qui ont grandi avec ça. Mais en termes de gameplay, ils ont fait un jeu qui s'adresse plus au public qui aime les Transformers maintenant, c'est-à-dire un public plus jeune avec un gameplay peut-être plus simplifié.
Il n'est pas si simplifié. Il
faudrait
dire
qu'ils sont à côté de la plaque.
C'est dommage en fait, quand tu proposes un jeu qui est clairement nostalgique comme ça d'aspect, là ils auraient pu se permettre de faire un gameplay pointu, à vraiment un Bayonetta-like plus pointu, tu vois.
C'est pas non plus super léger en termes de gameplay, c'est quand même assez Enfin, je veux dire, quand t'affrontes un boss, si tu connais pas le witch, si tu n'arrives pas à activer le focus mode, donc quand t'esquives un coup, si t'es pas un peu, comment dire, au fait de tous les combos qui sont disponibles et de l'attaque véhicule, bon bah autant arrêter tout de suite quoi, parce que tu vas te faire torcher. Non, faut un minimum quand même de technique. Hein.
Ouais. Parce que j'ai vraiment kiffé en te regardant jouer et ouais. en t'écoutant jouer. En fait, ouais. c'est le que quand tu te transformes de robot à camion,
surtout en fait, c'est ça le problème.
De robot à camion, de camion à robot, t'as le bruit, voilà le bruitage caractéristique.
Ouais.
Avant
et arrière,
qui m'a marqué
vers robot
à vie.
Ou vers véhicule, tu sais qu'il est inversé. Et c'est effectivement, ouais. c'est.
Ouais, il va dans les deux sens, bien sûr.
Enfin bon, quoi qu'il arrive, après l'avoir fini, au bout de 5 heures environ de jeu, ça laisse entendre qu'il y aura sûrement une suite.
Tiens donc.
J'espère qu'il y en aura une. Pour
si je vends par palette.
Pour justement que Platinum puisse. Étoffer un peu le truc et mettre un level design peut-être un peu plus
c'est un jeu de commande
quoi.
Plutôt bien fait, mais
c'est un
voilà.
jeu de commande. À mon avis, ils n'ont pas eu beaucoup de temps non plus.
Ouais.
Et bon, bah déjà, si c'est en peu de temps que ça a été fait avec peu de budget,
bah attends, il a été annoncé à la Gamescom quand même. C'est ça, hein.
Il a
non,
été,
moi,
montré,
je me
il était jouable à la Gamescom.
À l'E3, j'en avais. À l'E3, il avait fuité juste
ah
avant.
Voilà, il a fuité à l'E3, mais c'est quand même. C'était il y a pas très longtemps.
Non,
c'est sûr, c'était pas il y a très longtemps, mais bon. J'attendais un peu plus de. Comment dire, de l'équipe qui s'était occupée de Metal Gear Rising Revengeance, qui était un de mes jeux préférés.
Je veux que Platinum Games fasse un jeu comme ça avec Mask.
Ok, ah.
tu te souviens de Mask,
bah, j'ai tous les jouets encore à la maison.
J'ai
même la base.
Masqué pour la liberté.
La base avec le rocher qui pouvait ça. J'avais le camion, j'avais des véhicules de Venom aussi, mais je me rappelle plus lesquels.
Est-ce que tu avais le petit personnage qui se transformait en scooter là, en forme d'œuf un peu?
Moi je l'avais, ouais.
Tu parles pas du robot qui était pote avec,
le,
avec le gamin.
Quand
j'étais petit, ce robot qui se transformait en moto et je le trouvais génial. Je sais pas pourquoi j'ai fait une fixette.
Le premier que j'ai acheté, c'est évidemment la moto hélicoptère parce que c'était la moins chère. 60 voilà. francs, si je dis pas de
bêtises. Donc toi, j'aurais pensé que c'était le truc le plus cher, le grandeur nature.
Grandeur nature, sortie de diamant.
Non, et
j'ai toujours
voulu avoir le comment il s'appelle, le boss de Venom. Là, il a un hélico.
Ouais, je l'ai toujours d'ailleurs, si tu veux.
C'est vrai.
Ouais.
Moi, je veux bien que tu me le filmes parce que moi, j'en ai rêvé toute
ma jeunesse. Mais je crois que j'ai cassé.
C'est pas grave.
Mais on a
quand il avait fini de jouer avec une heure,
je crois.
Je le voulais tellement que je l'ai
surtout.
Je le voulais tellement que je l'ai construit avec du polystyrène et de la peinture et des limes à ongles.
C'est beau.
Si je limais le polystyrène pour créer la forme de l'hélico, etc. Et dans ma tête, c'était super bien fait. Je pense que si je le revoyais aujourd'hui, ce serait.
Est-ce que vous avez eu le château des maîtres de l'univers?
Bien sûr, j'ai toujours.
J'ai eu le château de Skeletor.
Il était fantastique.
Oh là là, le château de Skeletor.
C'est un peu. C'est
le
un
château
peu
des ombres, j'ai toujours.
Oh, il était beau.
Le siège qui tourne.
Mais c'est vrai, c'est marrant. Il y a des jouets. On devrait faire un podcast juste sur les jouets.
D'autres podcasts s'en chargent très bien, t'inquiète pas. Autant les laisser faire parce que nous on est
mais c'était bon,
on risquerait
dénaturer là.
Ouais,
bah il veut
qu'on...
pas
non mais faut arrêter de dire à tout le monde qu'on était des bourgeois quand on était petits quoi.
Non, bah,
il y a un moment
moi je me rappelle avoir demandé à tous mes Noël le vaisseau de Capitaine Flamme qui avait une gueule pas possible. C'était génial, vous vous rappelez, c'était une grosse boule.
Capitaine Flamme, c'est... j'ai pas connu.
Il avait tellement la classe et en fait il y avait pas de jouet Capitaine Flamme quoi.
Ah si,
ah bah moi j'ai en tout cas mes parents les ont jamais trouvé.
Je suis pas sûr que j'avais le Capitaine Flamme.
Mais t'as tout eu toi après?
Moi j'étais super gâté.
Il y a eu le bateau de Cobra aussi. Le bateau de Cobra,
j'ai rien
eu
de Cobra.
Tiens,
le
plus
bateau
que Mask,
Bordeaux là.
Ouais. Plus que Mask, là je viens de penser en termes de gameplay, etc. Un jeu Bioman avec ce type de réalisation, avec les phases de Beat'em All à pied.
J'ai toujours trouvé que c'était de la daube intersidérale.
Moi j'aimais bien Bioman.
Fuck Bioman.
Ah, Bioman, c'est Bernard Minet quoi.
Avec tellement violent qu'il y fait Bioman. Bah tiens,
les phases en robot géant et tout.
Tu dis fuck Bioman, c'est rock'n'roll je trouve.
Ouais, c'est un peu rock'n'roll comme attitude.
Et justement, ça me permet de faire une transition vers un jeu que tu as testé.
Quelle transition?
Rock Band.
Cette semaine qui s'appelle Rock Band 4. Sorti le 6 octobre sur à peu près toutes les machines, encore une fois.
Ouais.
Tu peux nous en parler évidemment.
Et bien sûr.
Alors, c'est le retour des jeux musicaux.
Alors d'abord, il faut savoir que ça fait quand même 5 ans qu'on nous avait lâché la grappe avec les jeux musicaux instruments. Ouais. Donc il y avait une certaine situation de manque qui s'était installée.
Ah ouais, t'étais
mais il fallait au moins ça. Hein. Il fallait au moins 5 ans, je pense.
5 ans, c'est pas mal. Voilà. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que Rock Band revient, mais Guitar Hero revient également. Et tous les deux, donc 5 ans après nous avoir lâché la grappe, comme je disais. 5 ans après nous avoir laissé sur une impression que c'était un peu le même jeu à droite et à gauche, là vraiment ils sont partis dans deux directions différentes. Alors la direction de Rock Band, c'est la continuité, véritablement la continuité. Alors il y a des nouveaux instruments, nouvelle batterie, Nouvelle guitare, il y a plus de clavier. Hein,
ça, c'est triangle. Non.
Voilà, plus de triangle encore. Ça viendra peut-être un jour l'harmonica également. Enfin, on ne sait pas, on verra. Dans tous les cas, ces instruments ont été remaniés et il y a donc des packs. Tu peux acheter le jeu seul, mais tu peux aussi acheter le jeu avec la nouvelle guitare ou avec la nouvelle guitare plus la nouvelle batterie et le micro pour faire le groupe complet. Alors cette nouvelle guitare, qu'est-ce qu'elle a de nouveau? Et bien tout simplement des tout petits aménagements à droite à gauche, et notamment le fait qu'elle fait moins de bruit qu'avant, parce que les guitares d'avant, quand tu grattais, quand tu appuyais sur les frettes, ça faisait pas mal de bruit, c'était assez gênant pendant que tu étais en train de jouer. Idem pour la batterie. La batterie, quand tu tapais dessus, tu regardes, on voit
ça fait toujours beaucoup de bruit. Hein, on te le dit, Julo, ça fait toujours beaucoup de bruit, la batterie.
Pendant que j'étais en train
d'agoniser, elle fait beaucoup moins de bruit qu'avant, y compris sa petite pédale qu'on a voilà, sous les pieds, fait moins de bruit, donc c'est bien. Les comment dire, qu'on appelle ça, le truc qui reconnaît les mouvements à l'intérieur, l'accéléromètre, un peu plus sensible, etc. Enfin, c'est vraiment des menus
détails. Pour lancer le mode
le mode Fury,
je sais plus quoi, c'est plus simple.
Voilà, bon, c'est franchement des micro détails, sachant que l'une des grandes qualités du jeu, c'est donc d'avoir misé sur la continuité. Et donc si t'avais Rock Band avant, tu peux réutiliser tes instruments d'avant, donc pas besoin de passer à la caisse, parce que quand même le pack complet ça coûte 300 euros, avec la guitare, la batterie, le micro et le jeu. Et le pack avec la guitare coûte quand même 150-160 euros, ça dépend un peu des boutiques où tu vas l'acheter. C'est cher également, donc ça fait plaisir, tu peux réutiliser tes anciens accessoires. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et celui-là est encore plus génial, c'est que si tu avais Rock Band sur PS3 et que t'es passé à la PS4 ou de 360 à Xbox One, eh bien tous tes DLC sont compatibles. Donc il y a quand même 1700 DLC disponibles. Donc quand je dis DLC, c'est des musiques, hein, évidemment, ou des packs de musique. Et donc tu peux rejouer à tout ce que tu as déjà acheté. Et quand même, les gens qui ont investi du temps et surtout de l'argent dans tout ça, dans les épisodes précédents, ils sont bien heureux de se retrouver avec tout ce qu'ils avaient acheté auparavant, jouable directement.
Avec les téléchargements des DLC,
si, il y a eu des petits soucis. Harmonix s'est exprimé auprès de sa communauté, a publié des fichiers Excel en disant voilà, ça c'est pas disponible, remontez-nous les problèmes que vous avez, on les règle petit à petit. Moi-même, j'ai acheté tout de suite du Nirvana et du Red Hot Chili Peppers. Au jour, je ne vais pas dire au jour d'aujourd'hui, non, aujourd'hui,
tu as le droit,
non, c'est interdit. Le pack Nirvana, je l'ai toujours dans l'os, je l'ai acheté mais je peux pas en profiter. Et le pack Red Hot Chili Peppers, lui, a fini par arriver, donc voilà. D'accord. Les problèmes sont réglés petit à petit.
Ça, il y a des latences entre le
En fait, le truc, c'est que ils ont quand même dû, avant c'était édité par Electronic Arts, Rock Band, donc il fallait s'entendre avec Electronic Arts, il faut s'entendre aussi avec Microsoft et Sony pour la disponibilité sur les stores, rendre compatibles les choses PS3 sur PS4, 360 sur Xbox One, etc., dans les marchés de chacune de ces consoles. Donc ça se fait petit à petit, mais voilà, il y a quand même déjà quasiment 700 DLC disponibles, et les autres vont venir petit à petit pour atteindre le chiffre de 1700, sachant que nous, en Europe, on a plus de problèmes qu'aux États-Unis. Voilà, j'ai l'impression qu'ils gèrent un petit peu d'abord les problèmes aux États-Unis avant de s'intéresser véritablement
à la playlist. Alors la playlist, justement,
il y a quand même une playlist de base dans le jeu, évidemment. Il y a 65 chansons dedans, c'est un petit peu moins qu'avant, c'est un joli chiffre, mais c'est un peu moins qu'avant, on était plutôt à 70, 80 voire plus sur les épisodes précédents. Et le véritable problème, c'est surtout que cette playlist, elle est certes extrêmement éclectique, c'est ça qui est génial, c'est que t'as du Elvis Presley, mais t'as aussi
t'as du Bruno Mars, du Bruno Mars, du R.E.M.
T'as vraiment
t'as tous les gens que j'aime énormément dedans.
Voilà, il y a The Cure, aussi, mais voilà, et c'est là que tu touches le problème, c'est que comme ils ont quand même fait beaucoup de versions de Rock Band jusqu'à aujourd'hui, pour se renouveler, il faut aller choper d'autres chansons de ces grands artistes, et donc c'est pas forcément les premiers couteaux, quoi. Donc c'est pas des standards, c'est pas les gros hits.
Pour Friday I'm in Love de The Cure, c'est quand même
oui. Il y a des chansons plus connues du grand public que celle-là.
Close to Me, mais bon, on va jouer Close to Me.
Dans l'ensemble, ça reste quand même. La playlist, elle est pas axée grand public.
Mais elle est très bien. Elle est très bien, mais elle est pas forcément grand public. Voilà.
C'est pas forcément tout ce qu'on connaît.
Après, ce qui est génial, c'est le côté jukebox le plus hallucinant. Ça donne le vertige quand tu vas dans le store qui est intégré au jeu. T'as envie de tout acheter. parce que voilà, t'es forcément fan d'un groupe en particulier, de plusieurs groupes en particulier, et quand tu vas dans le store de Rock Band, t'hallucines totalement, et ça c'est vraiment le gros point fort du jeu. Moi par exemple, je me mets à Rock Band avec Rock Band 4, eh bien j'ai eu envie de tout acheter, quoi. C'est un truc de malade. J'ai déjà dépensé au moins 30 euros, alors que ça fait que quelques jours que j'y joue. J'ai peur. Donc ça vraiment, c'est la plus grande qualité du jeu.
Son DLC.
Oui, oui, c'est la banque de musique disponible. C'est important. C'est super important parce que
j'aurais aimé moi je l'ai vu la playlist. Hein, j'aurais aimé un peu plus de choses grand public d'emblée.
Bah, c'est très rock.
C'est ce que je disais. Ouais.
Rock.
C'est très rock, très connaisseur, quoi. À part ça, il y a quand même des trucs super connus. Hein, attention, hein, qu'on s'entende bien.
Hein. Trop
Nirvana, REM, c'est quand même.
Il y a quand même vraiment des chansons. Il y a des chansons connues, mais disons que quand tu parcours la playlist de 65 chansons, ce qui est quand même beaucoup, t'as pas que des hits. Bon, après c'est normal. Et donc pour moi, la plus grande qualité du jeu, c'est effectivement de pouvoir proposer d'une part la possibilité d'utiliser tes anciens accessoires, donc de pas te faire arnaquer, parce que qu'on va parler de Guitar Hero tout à l'heure, hein, Guitar Hero, il faut racheter les guitares, hein. T'as tout l'argent que t'as investi dans Guitar Hero dans les précédents épisodes, tu l'as dans l'os. Bah, ressors tes vieux épisodes et ta PS3, ou alors passe au suivant et rachète la guitare, remets de l'argent, etc. Donc là vraiment, c'est vraiment une immense qualité. Et quand on commence avec Rock Band, c'est aussi une immense qualité, parce que moi, si je joue à un jeu musical que j'ai envie de jouer avec les chansons que j'aime, et t'as vraiment tout à dispo. Et t'as des packs, t'as des chansons à 70 centimes, des chansons à 1,40€, c'est pas du foutage de gueule, et il y a vraiment vraiment énormément de choix, et ça en fait vraiment un jeu de référence pour moi.
D'accord.
Et
Guitar Hero Live, qui lui va sortir un peu plus tard, qu'est-ce que tu peux nous
alors
dire?
Attends,
dessus comparé
ben justement, juste pour finir, Rock Band, il a quand même les défauts de ses qualités, justement, ou les qualités de ses défauts. Après, ça dépend comment on voit le verre, à moitié vide ou à moitié plein. C'est que en jouant la continuité, pour que tous les DLC soient disponibles, etc., et pour que les guitares anciennes puissent être réutilisées, ils ont dû rester sur la même base. Il n'y a pas de nouveauté majeure. Donc la nouveauté majeure du jeu, c'est le freestyle. C'est-à-dire qu'à certains moments de la partition, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Et
avec
c'est assez bien fait.
Instrument avec
ouais,
le micro
ouais,
aussi.
Ouais. Et c'est surtout génial avec la guitare. D'ailleurs, tu as un tutoriel dans le jeu qui t'apprend à faire du freestyle, parce qu'au début, tu fais de la merde. Et après, tu te rends compte qu'en fait, il y a une façon de faire du freestyle. Et il t'explique comment, en utilisant les frets d'une certaine manière, en grattant d'une certaine manière, etc., en levant la guitare, et tu finis par obtenir des sons géniaux, et ça te donne l'impression d'être une rockstar sur scène, quoi. Et c'est assez entraînant, quoi. Vraiment, quand tu joues et que tu fais un solo, c'est cool. C'est pas sur toutes les musiques, évidemment, notamment sur les anciennes.
D'accord.
Mais sur certaines des nouvelles, t'as des parties solo, et t'as des solos aussi au chant, si t'as envie de chanter en solo et en batterie, évidemment. Mais donc, à part cette nouveauté là, ça sent un peu
le réchauffé,
quoi. C'est à dire que le mode solo ou pas d'ailleurs, parce que tu peux jouer en groupe, hein, c'est le principe de Rock Band, encore une fois, à l'opposé de Guitar Hero, c'est tu joues de la guitare, basta. Rock Band, c'est tu fais du rock avec tes copains, donc il y a un mec à la batterie, un mec, et c'est ça aussi qui fait la différence et qui est très entraînant.
Peut-être,
et
donc
par
fun,
contre, attention, parce que dans les précédents Guitar Hero, il y a eu des versions de Guitar Hero où t'avais plus que la guitare, hein.
Oui, et c'est plus le cas,
mais non, là maintenant tu peux mettre le micro quand même, tu peux
chanter. Il y a le micro, tu peux chanter, bien sûr. Donc voilà, il a ce défaut, on pourrait dire que Harmonix était un peu dans ses pantoufles. C'est-à-dire ils sont pas foulés, ils ont mis une grosse nouveauté, mais du fait de vouloir tout reprendre d'avant, bah ça les a obligés à rester dans une espèce de continuité, pas forcément très innovante. Mais franchement, je prends mon pied, parce que Harmonix a une science, véritablement, ils l'ont prouvé avec tous les épisodes jusqu'à maintenant.
Bah avec tous les jeux musicaux qu'ils ont fait.
Voilà, c'est qu'ils ont une science du placement des notes, etc., ce qui te donne une impression de véritablement sortir les sons et jouer les morceaux. Et c'est juste kiffant, que tu sois à la batterie, à la guitare, à la basse ou au chant, c'est kiffant. Et se retrouver tous ensemble, avoir chacun son instrument, c'est mortel, parce que par exemple, dans une chanson comme Seven Nation Army, que tout le monde connaît,
surtout moi,
les instruments arrive petit à petit, donc on est quatre comme ça, un mec au micro, une guitare, une basse, une batterie, et la musique commence avec la basse. Alors tout le monde regarde son pote jouer la basse, pendant ce temps les autres se tournent les pouces, tu vois, ils attendent de rentrer en scène. Hop, il y a la batterie qui arrive d'un coup, ta ta ta, le mec qui se met à chanter, et ensuite la guitare qui fait le refrain. t'as vraiment l'impression de jouer la musique et d'être dans un groupe de rock. C'est ça, ça vraiment, c'est le sentiment génial de Rock Band.
Et il y a une petite touche sympa. Alors, je sais pas si c'était déjà présent dans les précédents Rock Band, mais quand tu te débrouilles particulièrement bien, au bout d'un moment, t'entends le public chanter.
Ouais, ça c'est super. Ah.
Le public se met à chanter avec toi, enfin avec le groupe, et t'as franchement l'impression d'être un dieu de la scène à ce moment-là.
Ouais, ouais, c'est génial. Par exemple, effectivement, si t'enchaînes plein de notes, effectivement, ils vont tous reprendre le refrain si le refrain arrive au moment où toi t'as cartonné. Il faut que ça. Donc ça n'arrive pas toujours, hein. Ça dépend
vraiment
de la performance.
Mais ça fait son petit effet.
Ouais. Et puis quand tu joues à plusieurs, il y a aussi des phases de synchro en fait. Quand tout le monde joue bien au même moment, ça crée aussi ce sentiment-là. Donc ça, c'est vraiment cool.
D'accord.
Bah, donc... Bref, c'est un jeu dans les pantoufles, mais honnêtement, c'est un plaisir de retrouver Rock Band.
Si t'es prêt à dépenser de l'oseille pour acheter les chansons qui te plaisent en DLC.
Parce que
moi, la playlist de base, après, c'est peut-être la limite de ma culture musicale qui s'exprime, mais la playlist de base de Rock Band,
je
trouve
ça
super moisi.
Bien plus honnête que la démarche d'Activision dont je vais vous parler dans un instant.
Parce
que
Guitar
Hero, on va pas vous faire un avis définitif, il faudra attendre le test pour ça. On a juste pu le brancher une fois, et puis je vous montre la guitare parce que vous voyez la guitare.
Alors j'avais pu jouer aussi
Guitar Hero noir et doré, dis donc.
Elle est très belle.
En fait, Guitar Hero, c'est l'opposé de ce que propose Rock Band, et finalement c'est ça qui est cool, c'est que vraiment t'as le choix. Alors déjà, première chose, ils ont refait la guitare, ce qui fait que évidemment, donc les anciennes guitares ne sont pas compatibles, mais ça leur a permis d'innover justement. Et en l'occurrence, les frettes sont positionnées différemment. On a deux lignes de trois. Ça donne l'impression de beaucoup plus jouer à la guitare comme en vrai, parce qu'il faut lever et baisser tes doigts. Mm-hmm. Et surtout, ça permet de s'y retrouver un peu mieux finalement, parce que t'as que 3 lignes sur l'écran au lieu de 6 dans Guitar Hero, c'est ça, 1, 2, 3, 5 pardon,
5,
de 5 dans Guitar Hero. Donc ça, c'est assez agréable,
t'étais aligné, c'était moins intuitif,
Ça fait souffler un vent nouveau, même si c'était
carrément
très dur,
les grands mots là. Alors, ça fait souffler un vent nouveau carrément.
Bah, dans ta façon d'aborder la guitare,
ça change pas mal, hein.
Ah mais ça fait t'as des sensations vraiment, pour moi qui joue un petit peu de la guitare.
Par contre, quand tu sors de grosses sessions de Rock Band et que tu passes à ça, c'est très difficile du coup, parce que tu t'es habitué à un système, tu passes à un autre système là, mais bref, c'est assez agréable franchement. Mais la grosse qualité de Guitar Hero, je vous en parlerai mieux lors du test quand ça viendra, c'est que, et comme Carole d'ailleurs vous en avez parlé dans ses impressions à l'époque, c'est que ils ont pas gardé l'aspect d'avant qui est celui de Rock Band avec les personnages façon Sims qui font de la musique. Là t'es en vue subjective et tu participes réellement au concert, c'est-à-dire que si tu rates un peu tes notes, il y a tes potes et même le public qui vont te le reprocher, donc il faudra te rattraper, etc. Donc ça, c'est un côté vue subjective.
C'est du live action, hein, faut préciser.
C'est du live
action. Avec de vrais acteurs. Il y a un groupe autour de vous qui joue les différents morceaux, et quand vous foirez, t'as la batteuse par exemple qui va te regarder en faisant comme ça, l'autre guitariste qui va se rapprocher de toi, genre ça va, vas-y, ressaisis-toi, et le public qui te regarde en faisant ça de la tête. C'est, moi, je trouve ça
super cool. Rien à faire des jeux musicaux, et ben là pour la première fois j'avais envie de jouer. Voilà
Julien qui s'est invité
en live
justement.
Et alors du coup ça fait ça aussi souffler un vent nouveau. Bref, ils ont une véritable envie de renouveler. Alors,
c'est plus mature.
C'est plus mature.
D'accord. Absolument.
Je vois ce que tu veux dire. Alors ça concerne que la moitié du jeu, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a certaines chansons qui sont jouables en live, les autres c'est juste le clip qui s'affiche.
D'accord.
Et l'autre aspect qui semble se dessiner, c'est un peu tout le contraire de Rock Band. C'est que là, je pense qu'on va vouloir te faire mettre la main à la poche. Et de manière un petit peu abusive. J'en reparlerai plus en profondeur quand j'aurai mieux compris le système, mais en gros il y a un truc qui s'appelle Guitar Hero TV dans lequel tu vas, et il y a des chansons qui sont proposées, tu peux pas les choisir, elles sont là et tu dois les jouer.
En fait, c'est d'accord. Comme si tu arrivais sur MTV en cours de
route.
Voilà.
Ouais. Et il y a des gens en ligne, et puis quelque part quand tu joues tu les vois, si t'as un meilleur niveau qu'eux tu passes devant, etc. Mais ces chansons ne t'appartiennent pas. Et par contre, tu peux décider de jouer les chansons que tu veux, mais pour ça, il faut que tu dépenses des pièces. Et ça te laisse, par exemple, t'as assez de pièces in-game pour acheter une grosse pièce qui va te permettre de jouer un morceau. Mmh. Et si t'as pas assez de pièces, tu peux acheter avec du vrai argent, d'accord, de la location de chansons.
Oui, pendant une
t'achètes
semaine,
pas
non
les morceaux.
C'est pas pendant une semaine, t'as des packs.
Non, c'est juste sur l'instant. Et alors que.
Pas bien. Tu peux aussi les acheter.
Alors justement, c'est la question que je me pose, mais c'est pour ça que je vous dis, je vous donne vraiment rendez-vous pour le test. Là, je vous donne le comparo évident qu'il y a entre ces deux jeux, c'est qu'il y en a un qui joue la continuité et qui permet aux joueurs de pas trop se ruiner. D'un autre côté, il y a Guitar Hero qui fait vraiment dans l'innovation, et c'est pour ça qu'il est vraiment intéressant. Mais d'un autre côté, semble se dessiner une politique très différente au niveau des DLC, de la façon dont tu dépenses tes micro-tunes.
Mais là, tu vois, là, on a fait une partie hier, une partie ou deux de Guitar Hero, et en me basant juste sur ce que j'ai vu rapidement, je connaissais d'emblée plus de chansons. Et j'appréciais plus de chansons dans Guitar Hero que dans Rock Band.
C'est
donc effectivement, moi j'adore, comme Julien, le concept de live action avec le groupe et le public qui réagit en direct. Je trouve ça mais génial.
Elle est pas non plus extraordinaire. J'ai fait un petit peu le tour. On est bien tombé
de la playlist, tu veux dire.
Ouais, la playlist, elle a genre 5-6 morceaux vraiment populaires, d'autres un peu plus rock, etc. C'est pas non plus. On est assez proche finalement de celle de Rock Band.
Regarde, si je me base sur mes goûts personnels. Et que je compare les deux jeux parce que j'ai un petit peu joué avec Julo 2, et ben je vais plus aller vers Guitar Hero parce que de toute façon Rock Band, vu sa playlist, je vais être obligé d'acheter du DLC. D'accord. Alors que là finalement je sais d'emblée sur Guitar Hero, et même si le concept du Guitar Hero Live je trouve que c'est un peu moyen aussi, je sais que je devrais acheter des chansons d'une manière générale, et le côté nouveauté de la guitare avec les deux lignes qui, j'ai joué un peu de guitare il fut un temps, donc là encore je trouve ça un peu plus réaliste.
Toi aussi au lycée?
Non, au collège. Un peu
plus. T'essayais de pécho au collège déjà?
Oh pff, non, j'essayais de m'en sortir déjà. Les deux lignes de guitare, je trouve ça plutôt chouette. Et le côté live action, je trouve ça vraiment vraiment chambé. Donc comme ça à première vue, en ayant fait quelques parties, je serais plus tenté par Guitar Hero que Rock Band.
Ce que dit Romain, c'est tout à fait vrai. Je pense que quelqu'un qui voit les deux jeux l'un à côté de l'autre va immédiatement être attiré par Guitar Hero. D'accord. Après, est-ce que c'est le bon choix?
Truc, c'est que Rock Band, quand tu l'as allumé la première fois que je suis venu des Atoll, je fais OK, on est en 2006. Quoi.
Et voilà, c'est ça.
Voilà, c'est le même jeu.
Alors
c'est
que jeu. Guitar Hero, c'est vraiment super immersif. Et justement, tu parlais du fait de se sentir vraiment une rockstar quand tu jouais.
C'est un peu moins dans Guitar Hero, justement, parce que je trouve sur les quelques morceaux que j'ai fait, mais ça c'est pareil, c'est pas un avis définitif, mais. Je vous parlais tout à l'heure de la science du placement des frettes, etc. Dans Guitar Hero, il est beaucoup moins évident. Dans le sens où, par exemple, quand tu as une chanson, je vous parlais tout à l'heure de Seven Nation Army, où il n'y a que la basse qui joue, où il n'y a que la batterie qui joue, et toi tu es à la guitare, et tu vas quand même faire des notes sur la batterie, ce qui n'a aucun sens. En gros, tu es tout le temps en train de jouer, même quand la guitare ne joue pas. Donc évidemment, t'as l'impression que tu fais la batterie avec la guitare. C'est assez déroutant et c'est beaucoup beaucoup moins immersif du coup. Donc voilà.
Bon, en tout cas, on attendra ton avis définitif sur Guitar Hero Live.
En tout cas, franchement, le mode en vue subjective, concert, etc.
Tu penses que c'est une porte d'entrée vers la réalité virtuelle pour Guitar Hero?
Mais justement, c'est la première remarque qu'on s'est faite, c'est que les caméras sont donc dirigées par le jeu automatiquement. Alors que
jusqu'au jour où ça va arriver,
évidemment,
en caméra,
si t'as le casque de réalité virtuelle et que la scène de concert a été filmée en 360, tu pourrais avoir la guitare dans la main et puis sentir le public autour de toi, aller voir partout, regarder exactement où tu veux. Je pense qu'il y a un truc mortel à faire avec cette idée-là.
Par contre, il y a un truc qui se confirme aussi bien sur Rock Band que sur Guitar Hero, c'est que le concept est toujours aussi fandard. Ça, franchement, tu t'amuses, même si tu joues en facile parce que t'as pas l'habitude ou quoi que ce soit. Ouais, tu t'éclates.
Tu me regardes pas moi, hein, parce que moi j'ai les doigts pourris.
Je dis ça à tout le monde.
Mais c'est ce que je disais d'ailleurs dans le test de Rock Band, c'est que je veux dire, c'est impossible de pas s'amuser avec ce jeu.
Par contre,
c'est juste pas possible.
Heureusement qu'ils ont mis le micro pour moi, parce que sinon, non, je m'amuserais pas.
Écoute, viens, on fait un Red Hot après.
C'est un investissement.
Ouais. Et jouer Scarty Shoe des Red Hot à la guitare.
Ouais, on verra.
Dans Rock Band, c'est assez mortel.
Parce que bon, je connais notre rédac chef, il serait capable de faire un périscope pendant qu'on est en train de jouer à Rock Band ou à Guitar Hero, j'en suis certain.
C'est pas son style.
Non, c'est pas son style, effectivement.
Moi, je rêve encore d'une partie de Rock Band ou de Guitar Hero où Traz chante. Je sais pas pourquoi.
Pourquoi tu fais ça?
J'ai envie d'entendre Traz chanter.
Il refuse à chaque fois.
Il veut pas. La batterie, ça allait encore.
Évidemment, c'est un instrument. Il est fait pour lui. Ouais.
Bon, on va rester un peu dans le rock'n'roll.
Oui, avec plaisir.
Un petit peu avec. Avec l'événement rock'n'roll de la semaine, à savoir l'ami Bolloré qui s'est amusé à prendre des parts d'Ubisoft et de Gameloft.
Qui s'est amusé, tu dis? Ouais, il s'est amusé, il a dépensé 140 millions.
Vincent Bolloré, l'industriel, l'homme d'affaires.
J'aime bien m'amuser comme ça.
Le président du conseil de surveillance de Vivendi, à qui on doit aussi Autolib, Direct Matin, qui depuis
quelque temps est aussi à la tête de Canal+, et ça fait parler, vous le savez, vous suivez l'actualité tous, notamment
pas du tout, je m'intéresse qu'aux jeux vidéo moi.
Du côté du grand journal où il y a eu un ménage, et on avait parlé de la possible disparition des guignols, et donc Vincent Bolloré, cette semaine, eh bien, a racheté 6,6% des parts d'Ubisoft et 6,2% des parts de Gameloft, ce qui fait quand même une petite dépense générale de 170 millions d'euros. C'est pas mal.
Des cacahuètes.
C'est un peu aussi le retour de Vivendi dans le jeu vidéo, hein, qui détenaient Activision jusqu'à l'année 2013, qu'il avait revendu pour 6 milliards environ. Donc, ce move, est-ce que ça vous inquiète pas par rapport à Ubi de
manière générale, vu les réactions, c'est la réaction Gameloft hein, qu'on a publiée.
Les deux.
Ah, Ubi aussi.
Ubisoft, bah, super Gameloft, froid.
Vu leur réaction, ouais. On sent qu'ils ont un peu le trouillomètre à zéro.
Ouais, on rappelle, il y a eu un communiqué qui explique que justement ils n'étaient pas forcément au courant et favorables.
Ah non, Guillemot l'a su le jour même apparemment. Ah. Voilà. Et alors ce qu'il faut rappeler, c'est que tu parlais de 6,6% d'Ubisoft, ouais. Les frères Guillemot détiendraient 10%.
10% chacun.
C'est... Non, apparemment non.
Ah, c'est 5% chacun.
Ouais, ouais. Enfin, je sais pas si c'est 5 chacun.
C'est quand même
mais ils sont nombreux, il y a pas que les deux, il y a pas que les deux.
Donc hein, ils sont voilà, c'est-à-dire que il devient instantanément extrêmement important dans la société.
Et ça peut n'être qu'un début. On se rappelle,
oui,
Electronic Arts en 2004 avait réussi à récupérer 15% d'Ubi. Bon, après, visiblement, ils ont un peu lâché l'affaire, mais c'était déjà très dangereux à l'époque. Et là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est à nouveau une nouvelle attaque, un peu hypoglouton de Vincent Bolloré pour essayer de s'implanter dans les jeux vidéo. Et peut-être, qui sait.
Ce qui est sûr, c'est qu'il fait pas ça pour le fun. Hein. On a bien vu, et quand il rentre quelque part, c'est pour, c'est pour faire des moves.
C'est pour faire Valeria Damido. Il change le décor.
Il change un peu le décor. Donc,
À quoi on peut s'attendre de la part de Bolloré pour Ubisoft?
Je pense qu'on n'est pas dans sa tronche.
Ouais.
Mais il a un plan.
Pensez que c'est quoi son plan?
Ils ont un plan.
Et là, il caresse son chat sur son.
Apparemment, il a pas demandé de siège
au conseil d'administration.
Pour l'instant, tel qu'il étudie la situation.
À mon avis, tu sais, c'est le calme avant la tempête.
Ouais. Mm-hmm.
Je pense. Après, c'est qu'un avis.
Mais ça serait quoi les conséquences
moi, je suis pas dans les hautes sphères.
Changement de direction.
Actionnaire principal ou même président de Gameloft et Ubi.
Ça serait peut-être pas lui, mais il placerait peut-être quelqu'un. Il placerait peut-être qu'un de son crew.
Mm-hmm.
Moi, je pense que les frères Guillemot, au moins, ou Yves chez Ubisoft, il a jamais été aussi en danger de perdre son spot.
Je pense qu'il doit être très inquiet.
Mais ça se trouve, c'est super gentil. Ça se trouve, il va inviter Yves Guillemot sur son paquebot comme il avait invité Nicolas Sarkozy à l'époque.
Mais ouais, ils peuvent être inquiétés là. Je pense qu'il y a anguille sous roche.
D'accord. Vous pensez qu'il y a.
Je pense qu'on est dans des sphères où on n'imagine même pas tout ce qui se passe. Et à vrai dire, on comprend pas tout. Enfin, je veux dire, c'est là, on tape dans le très très haut du panier de la sphère. Comment dire, des affaires, quoi. Ouais, c'est. Je sais pas si on peut avoir un. Moi personnellement, je me sens pas avoir un avis pertinent sur ce qu'il compte faire. Tu vois, je pense qu'il a un plan et que ça inquiète Ubisoft.
On peut imaginer quelque chose de plutôt hostile vis-à-vis d'Ubi de manière générale ou quelque chose de plutôt bienfaisant.
Je pense que c'est pas hostile.
Enfin, vis-à-vis de la direction d'Ubi plutôt.
Je pense que c'est pas forcément hostile, mais ça leur fera pas du bien.
Mais ils ont pas a priori de mauvais résultats Ubisoft. Ouais. Donc, je pense que c'est ça qui guide un peu tout. Et s'il investit là-dedans, c'est parce qu'il sait que c'est un secteur important. Et maintenant et pour l'avenir, Ubi c'est l'une des plus grosses boîtes dans le domaine du monde et que c'est déjà de base je pense un bon placement et après je pense que c'est en fonction des résultats.
Ouais, mais après tu vois en regardant dans les résultats financiers dans les différents papiers dans la compta etc, il va se dire on pourrait peut-être encore plus efficace ou choses comme ça, donc il va peut-être vouloir tailler dans le gras là où l'Ubisoft tel qu'on le connaît actuellement aurait peut-être été plus relax parce que c'est un mec, c'est un businessman le mec, il est pas là pour rien.
Il peut fermer des studios, quoi. C'est ça que tu veux dire. Voilà. Parce que il faut rappeler aussi qu'Ubisoft, c'est une structure tentaculaire. Hein. Ils sont partout dans le monde et il y a des studios éparpillés. Des boîtes.
Ils rachètent énormément.
Il y a une maison mère, mais il y a des milliers de boîtes. Enfin, des milliers peut-être pas. Enfin, il y a énormément de boîtes autour.
Ouais, ils ont racheté la boîte de The Crew, la boîte de Rocksmith aussi.
Récemment.
Je pense que là où il y a peut-être un petit peu d'affect qui pourrait jouer dans une décision d'un des frères Guillemot dans sa société respective.
Comme ils sont bretons tous,
ça sera peut-être moins le cas s'il y a une ère Bolloré chez Ubisoft.
Mais moi je pense que les gens d'Ubisoft, alors que ce soit les actuels patrons ou même tous les employés, etc., craignent un petit peu cette chose-là, parce qu'effectivement tu parles d'une ère Bolloré, et effectivement à mon avis il va y avoir un changement de mentalité, parce que Ubisoft, c'est quand même, tu peux le demander à tous ceux qui bossent là-bas, ça reste une boîte familiale, c'est énorme, hein. Mais c'est une boîte une entreprise familiale.
Pour moi, c'est une secte, hein, Ubisoft, c'est assez, ça fait assez flipper.
Oui, c'est
hein,
un peu renfermé sur. Ouais, c'est comme une famille, justement, mais c'est propre. Ah,
Mais là, c'est ça,
c'est propre des boîtes familiales.
Comme nous, d'ailleurs. Là, quand tu vois le communiqué d'Ubisoft, là, tu sens que c'est un étranger.
Qui arrive dans la famille de force,
il rappelle leur volonté d'indépendance, etc.
C'est pour ça que c'est peut-être pas lui, il a peut-être pas de mauvaises intentions. Au contraire, je pense qu'il veut du bien à cette boîte.
Ah bah il veut du bien à la boîte, mais peut-être
qu'il
a mis 140 millions dedans.
Il veut du bien à son portefeuille.
Mais ça fera peut-être pas du bien aux actuels dirigeants. Voilà.
Voilà. Mais c'est
en tout cas, bonne ambiance. Quand tu vois le communiqué,
non, mais c'est la peur de l'inconnu. Hein. Là, il y a rien qui fait plus peur que l'inconnu. Ouais, ouais. Et là, ils savent pas à quelle sauce ils vont être bouffés.
On va se plonger dans l'inconnu aussi maintenant, car Julo, Carole, Romain, comme chaque semaine, nous allons aborder le hors-jeu de Gameblog.
Les hors-jeux
sont évidemment des œuvres qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo, mais que nous avons découvertes ou appréciées ces derniers temps. Ça peut être des séries, ça peut être du cinéma, ça peut être des expos, ça peut être des jouets, ça peut être des bouquins. Et justement, cette semaine, il y a énormément de bouquins. Ça change.
D'habitude, il y a énormément de séries.
Ouais, d'habitude, il y a beaucoup de séries, oui. Mais là, depuis que j'ai dit qu'on lisait pas beaucoup chez Gameblog, j'ai l'impression
que
tout le monde s'est mis à bouquiner alors qu'on sait pas lire. Bref,
il a fallu apprendre à lire d'abord.
Ouais, il a fallu d'abord apprendre à lire.
Ce fut long.
Et ça fut assez compliqué. Julo, on va commencer avec toi.
Ouais.
Tu vas nous parler du journal d'une disparition qui est publié chez Kana et qui nous parle de...
Alors c'est un manga.
C'est un manga.
Voilà, le journal d'une disparition, comme tu le disais, aux éditions Kana, et plus précisément dans leur collection Made In. Alors c'est des trucs un petit peu moins mainstream que le reste, quoi. Hein. En gros, pas les, on va dire les mangas d'auteur ou les trucs un peu différents, quoi. Pas les shonen. Mm-hmm. Journal d'une disparition. C'est un manga de Hideo Azuma. Alors ouais. Hideo Azuma, qui est-ce? C'est un mangaka dont vous connaissez peut-être pas le nom. C'est pas un nom qui fait rêver. Mais c'est un mangaka très connu, hein, dans le milieu des mangaka, et qui est œuvre depuis bien longtemps, puisque il est né en 1950, je crois. Donc il a travaillé à partir de 19 ans. Donc voilà, c'est fin des années 70. Et il a notamment côtoyé le grand maître. Hein, le dieu du manga ou le roi du manga, ça dépend un peu, c'est les deux surnoms qu'on lui donne, Osamu Tezuka, avec qui il a travaillé auprès de différents éditeurs, etc. D'ailleurs, on voit Osamu Tezuka dans ce manga. Pourquoi? Parce que c'est un manga autobiographique. Ouais, voilà.
Qu'est-ce qu'il nous raconte?
Hideo Azuma, il nous raconte sa vie. Alors vous allez me dire, une vie de mangaka, comment est-ce que ça peut être intéressant? Lui, c'est un mangaka un peu particulier, parce qu'un jour il a pété un câble. Il était en train de travailler pour son éditeur. Il s'est fait, comme il dit, submergé par la pression. Il a laissé une petite note sur son bureau. Désolé, il est parti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est jamais revenu au bureau, mais il est également jamais revenu chez lui, ou tout du moins pendant très longtemps. Et il est parti, et il est devenu SDF. Et il en avait ras-le-bol de cette pression, et il a eu une envie de... Alors après, c'est au lecteur un petit peu de s'imaginer ce qui se passe dans sa tête, parce que... c'est une histoire tragique, hein. Mais elle est vue sur le ton de l'humour et avec des dessins qui sont extrêmement
c'est assez enfantin, là,
enfantin, voilà, c'est du manga,
oui, c'est un
peu comique,
crayon, très léger,
ça fait collège foufoufou un peu, je trouve, années 80.
C'est un peu plus beau le collège,
voilà, donc c'est des dessins très, il y a beaucoup de cases, hein. c'est très serré, c'est très sur le ton de l'humour et sur la légèreté, alors que c'est un sujet évidemment très grave, parce que ce pauvre vieux Hideo Azuma, il lui arrivait pas que ça, il est donc parti. Il a quitté sa vie pour en trouver une autre de liberté, mais de souffrance aussi, dans la rue, où il le dit à plusieurs reprises, il a failli mourir de froid avec ce symptôme bien particulier. C'est marrant parce qu'il t'apprend plein de trucs, hein, sur avant de mourir de froid, apparemment on a nos os qui craquent, et il a ressenti ce craquement d'os, il a cru qu'il allait y passer. Il a fini par être retrouvé par la police, il était parti très loin de chez lui pour pas être retrouvé, mais il a été retrouvé quand même par des policiers, comme il avait des signalements de recherche, etc. Il a fini par rentrer chez lui, et retrouver une vie normale. Mais entre temps, comme il en avait marre d'être clodo dans la rue, il a trouvé un boulot manuel, un boulot à la con, entre guillemets, pas un boulot d'écriture, de réflexion, etc. Il a bossé pour la compagnie de gaz, une compagnie de gaz qui faisait des réparations. Il a commencé par faire des petits boulots, puis une formation, et puis il s'est créé en fait une autre vie. Et ce qui est marrant, c'est que au moment où il a besoin de plus rien faire, il ne fait plus rien et l'activité lui manque et il fait un boulot manuel, ce qui lui manquait quand il faisait les mangas. Et quand il fait son boulot manuel, son boulot de mangaka finit par lui manquer. Et finalement, il y a une réflexion de fond sur la façon dont on gère nos vies et dont la pression nous fait faire des choses. Ou, je veux dire, la société nous fait faire les choses d'une certaine manière et parfois on se sent submergé, on a envie d'en sortir. Et donc, il y a des réflexions intéressantes qui sont faites. Et puis on se prend d'affection tout simplement pour ce personnage qui est dessiné avec, comme vous pouvez le voir, un gros œil et un tout petit œil, comme pour les deux regards qu'il peut avoir sur sa vie. Et il finira par devenir totalement alcoolique, à finir à l'hôpital.
Ça s'appellera.
Dans ce manga-là, voilà, parce qu'effectivement, t'as raison, Plumo, Journal d'une disparition a été suivi d'un autre volume qui s'appelle Journal d'une dépression. Donc c'est très gay,
un seul volume.
Mais ce qui est fou, c'est que
tout ce que je vous raconte là, ça se passe
quand tu connais une de ses œuvres, tu te dis comment c'est possible que ce soit aussi peu gay, quoi. Parce que
c'est assez triste.
Toi, tu m'as appris que c'était le dessinateur de Nanako SOS qu'on a découvert en France sur France 5. Enfin, c'était sur la 5 même à l'époque.
Alors ouais,
sur la 5, ça s'appelait Super Nana et c'est un dessin animé qui m'a fait ultra mourir de rire.
C'est quelqu'un de très drôle, hein. Il a beaucoup d'humour, il a un regard sur sa propre vie mais aussi sur le monde qui l'entoure qui est vraiment très drôle, et ça se ressent dans ce manga dans lequel tu croises, hein, je disais aussi, d'autres mangaka, et tu le vois dessiner ses mangas et raconter. Il raconte aussi, c'est ça qui est génial, c'est que c'est autobiographique, il y a cette partie un peu SDF qui est surprenante, alcoolisme et tout ça, mais t'as aussi la vie qu'il avait en tant que mangaka et ses relations avec les éditeurs qui lui mettent la pression et qui lui font dessiner des choses qu'il a pas envie de dessiner, les mangas qu'il apprécie mais qui n'ont pas de succès, sa rencontre avec Tezuka, comment ça fonctionne au niveau de l'écriture des bulles, combien de pages il doit rendre par semaine, comment il se fait submerger de travail, voilà, toutes ces relations-là, cet envers du décor des mangaka dans les années 80, un moment où c'était en plein essor, évidemment. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Alors, j'ai pas encore lu la suite, donc le Journal d'une dépression. Sûr, ouais. J'ai cru comprendre que c'était...
C'est un peu le mot passant des mangaka.
J'ai cru comprendre que c'était beaucoup moins bien.
Mais Journal d'une disparition, ça tient que sur un seul volume. Donc là, on a toute l'histoire. Si
là,
ça.
C'est pas toute l'histoire de sa vie, mais c'est cette tranche de vie-là, SDF, alcoolisme, etc.
Donc, Journal d'une disparition, t'as pas volume 2, 3,
non.
C'est juste
C'est en un seul volume, ça coûte 10 euros, je crois, un truc comme ça.
Ouais. Et on sait ce qu'il est devenu aujourd'hui, là, s'il va bien, s'il est nouveau.
Oh, écoute, je crois qu'il est plus ou moins à la retraite, là, maintenant. Il a eu des enfants, il a une femme qui a failli quitter.
Comment s'appelle-t-il?
Bah, tu m'étonnes, le mec Hideo, disparaît déjà.
Comme Kojima, hein, Hideo Azuma.
Et je vais chercher tout de suite. On va et alors, ce
non, mais ce qui est marrant, c'est que c'est aussi un personnage assez controversé. Donc, un mangaka connu qui a fait des mangas, pas des super hits, mais des mangas, tu vois, toi-même, tu connaissais Nanako SOS, donc Super Nana en France.
Tu reconnais le coup de crayon, effectivement.
Il a 65 ans, hein, il est pas si vieux que ça.
Et c'est aussi, il est aussi connu pour être un peu controversé parce qu'il serait à l'origine un peu du style Moe. Donc, tu sais, les filles avec des oreilles de chat. Des queues de lapin, un genre de truc. Voilà, et il a fait aussi énormément il a lancé un peu la mode du Lolita, des mangas érotiques avec des jeunes filles. Donc voilà, ça c'est la partie un petit peu plus sombre du personnage, mais il a un regard assez distant là-dessus, à la japonaise, parce que c'est vrai que quand on parle de sexualité en France et comme on en parle dans la société au Japon, on n'a pas du tout le même rapport à ce genre de choses. Bon, ça explique pas tout, voilà, c'est aussi un personnage controversé parce que il est à l'origine un petit peu de ces mangas là quand il a connu un deuxième élan dans sa carrière avec son propre studio, etc. C'était en dessinant des choses érotiques avec des jeunes filles, etc.
D'accord.
Donc voilà, en tout cas j'ai l'impression de le connaître aujourd'hui et j'ai beaucoup d'affection pour lui.
Mais c'est récent en fait,
à travers des dessins qui sont extrêmement naïfs, un récit assez horrible raconté avec énormément d'humour et de détachement. Vous le conseille fortement.
Journal d'une disparition chez Kana, dans la collection Made In. On va passer à quelque chose
chez Kana, donc
d'un peu plus connu, je pense, n'est-ce pas, Romain? Ouais. C'est un peu plus connu, hein, ce dont on va parler après.
Un petit peu. En plus, c'est un petit peu dans l'actualité en ce moment.
C'est dans l'actualité. Ah bon, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, je vous le montre.
Dis-nous, de quoi tu veux nous parler ?
Je vais vous parler de Retour vers le futur.
Ah.
Tiens, c'est bizarre, ça.
C'est incroyable, ça.
C'est le, en anglais, c'est Ultimate Visual History. Il y a un titre français dont je ne me souviens plus.
Ah, parce qu'il existe en français, le bouquin ?
Il sort le 23 octobre en France.
On a bien appris.
Je l'ai appris ce matin.
Même jour que Guitar Hero Live.
Et je l'ai appris ce matin.
C'est pas le 20, non ?
Pourquoi
le 20, c'est l'embargo.
Pourquoi Retour vers le futur ? Parce que Retour vers le futur en 2015 fête ses 30 ans. Ouais. Et le 21 octobre 2015, je voulais
Marty
peut-être
va arriver le 21 octobre, c'est ça ?
Dans Retour vers le futur 2, quand il arrive dans le futur, c'est le 21 octobre 2015. Donc, on est pile dans le, on est
dans
pile dans le truc.
Temps.
C'est pile le lendemain mon anniversaire.
Et c'est un magnifique bouquin. Alors, je vais essayer
que tu as déniché en Grande-Bretagne, n'est-ce pas ?
Oui,
tu
en fait, il est en vente sur Amazon, etc.
D'accord.
Mais c'est absolument génial et ça vous raconte bien évidemment la création des trois films, du dessin animé, des produits dérivés, etc.
On voit qu'il y a la lettre de Doc à Marty.
Il y a plein de photos d'archives, mais un truc qui est une petite touche sympatoche, c'est que justement, il y a plein de goodies accrochés dans le livre. Par exemple, vous avez la lettre que Marty donne au Doc pour le prévenir qu'il va se faire attaquer par les Libyens. Vous avez la lettre que le Doc envoie à Marty à la fin de Retour vers le futur 2 pour lui dire « Je suis dans le passé, je suis dans les années 1880, ne viens pas me chercher, tout va très bien. » Vous avez l'affiche des Dents de la Mer 19 réalisée par Max Spielberg. Vous avez la photo de Marty avec son frère et sa sœur qui disparaît, tu sais, quand le temps change. Ouais. Vous avez énormément de choses comme ça. Et si la création, l'histoire de Retour vers le futur vous intéresse, vous avez des pièces, mais super rares. Par exemple, vous avez plein de photos prises au moment du tournage où c'était Eric Stoltz qui devait jouer Marty McFly avant que Michael J. Fox ne soit engagé. Donc, on avait eu dans le Blu-ray qui était sorti il y a quelques années pour les 25 ans, si je me souviens bien, un tout petit aperçu de quelques secondes de scène tournée avec Eric Stoltz. Mais là, vous avez plein de photos. Donc, vous voyez à quel niveau d'avancement le film était quand il s'est fait virer. Vous avez plein de pièces d'archives. Par exemple, une lettre d'Universal qui accepte de payer la chambre d'hôtel d'Eric Stoltz pendant 2 semaines supplémentaires après qu'il ait été viré. Enfin, ça rentre aussi bien dans la création de scénaristique, les concepts art de la DeLorean, etc. Mais aussi plein de choses en parallèle, les coulisses du tournage, etc. Vous avez plein de photos de Hill Valley, vous avez plein de choses comme ça. Si la trilogie Retour vers le futur vous plaît, vous intéresse, c'est un livre qui est totalement
c'est pour les fans ultimes, quoi.
D'après Amazon France, le bouquin sera vendu 40€ chez nous, mais il les vaut clairement parce que vous pouvez le voir là, je vous montre depuis tout à l'heure. C'est un gros bouquin, ce sont des belles photos, plein de goodies, c'est vraiment génial. Alors moi, je l'ai acheté il y a 2 jours, donc je l'ai pas encore lu beaucoup, mais je l'ai feuilleté, j'ai regardé les photos, les goodies accrochés ça et là, et c'est vraiment vraiment génial. Ça se dévore littéralement si vous aimez Retour vers le futur. Et là, en plus, on est en plein dans le contexte.
Ah bah c'est dans cette saison, quoi.
Et ouais, il y a plein d'anecdotes de tournage. Vous avez Marty qui prend la photo avec le Doc dans le vieux Hill Valley. C'est vraiment extrêmement complet et intéressant. Voilà.
Et moi, tu sais que
très bien,
veux,
bah,
hein.
Tu m'as convaincu. Tu dis ça sort le 23 octobre.
Je sais pas
en
comment
France.
Était mise la photo là, regarde, mais elle dépasse maintenant.
Environ une quarantaine d'euros.
Ouais, 40€ chez nous.
D'accord. Et la durée de vie, c'est combien?
Durée
c'est en 1080p.
Ça dépend de votre vitesse.
La définition des pages,
de votre vitesse de lecture. Ah, les pages sont en full
60
HD.
Pages par 60 pages.
Et finalement,
par
alors tu lui mets combien sur 5?
Oh, je lui mets 5. Je mets 6.
Okay. C'est l'indispensable.
Indispensable.
D'accord.
Et on aime, on n'aime pas. Qu'est-ce que tu n'aimes pas?
Rien.
Rien.
Rien
n'est.
Regardez cette photo. Prise au moment de Retour vers le futur 2 de Marty, du Doc avec Einstein devant l'hôtel de ville. C'est ma photo préférée de Retour vers le futur et ils ouvrent le bouquin dessus. C'est génial.
C'est un signe.
Ils expliquent même la création des affiches, parce que les affiches de Retour vers le futur sont cultissimes. C'est Drew Struzan qui les avait faites et qui a fait énormément de films, les Harry Potter, Indiana Jones, tout ça. C'est son style dessiné mais réaliste,
ouais, un peu bédé,
bien
quoi.
Typique des années 80. Et donc vous avez des ébauches d'affiches, vous avez la photo référence pour la création de l'affiche de Retour vers le futur 2. Enfin, ça recèle de contenu, c'est absolument génial. Je vous le recommande.
Tu sais ce qu'on devrait Tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait sur la news, puisque cette partie hors jeu est proposée à part du podcast, mettre les liens pour aller découvrir tout ça. Voilà,
tiens, regarde, tiens mon micro, je vais vous montrer une photo de Doc avec Marty, mais version.
Mais montre pas ton bouquin non plus.
Julo va le faire.
Qui va l'acheter si tu montres
tout? Ah ben non, mais il y a tellement de trucs. Tu peux pas tout montrer. Donc voilà. Voilà Eric Stoltz dans le rôle de Marty McFly, donc c'est une version qu'on ne verra jamais et qui est limite complète, hein. Enfin, si tu fais du montage, tu pourrais limite y arriver. Et voilà, c'est historique, c'est génial.
Très bien. Et ben, on va demander maintenant à Carole de nous parler de son petit hors-jeu, qui est beaucoup moins gros que le tien.
Qui est très petit.
C'est un bouquin.
C'est un livre de poche.
C'est un livre de poche.
Et donc, voilà, écrit par Adrien Bosque. Alors, c'est son premier roman. Mm-hmm. Donc, si vous ne le connaissez pas, c'est un.
Donc, c'est le frère de Franck Duhan, en fait.
C'est exactement. Voilà. C'est exactement lui. Et donc, ce monsieur a écrit un livre qui est. Pas vraiment un roman, c'est plutôt une enquête. Mm-hmm. Donc ça s'appelle Constellation. Donc je sais pas si
on a une image pour les premiums.
Je pense qu'il y a quelques images, voilà. Mm-hmm. Et donc cette enquête en fait un peu romancée raconte l'histoire du crash de l'avion Constellation qui était un avion de chez Air France. Et donc il s'est crashé en 49 dans l'archipel des Açores avec Marcel Cerdan. À l'intérieur,
qui était à ce moment-là qui allait faire son match de revanche contre le
tout à fait c'était Lamotta il me semble
Je ne crois pas, tu penses? Bon, vous nous confirmerez.
C'est fort possible. Mais ça doit être.
Il allait faire sa revanche parce qu'il avait perdu son titre de champion.
Je vais te dire, il avait perdu et là il était hyper c'était contre contre Joe, il me semble que c'est Lamotta. Jack Lamotta. Ouais. Voilà, exactement. Donc Lamotta. Et donc il était motivé, il était à fond, hein. Et donc effectivement, c'était la star, puisque l'avion Constellation, c'était l'avion des stars. Là, pour le coup, effectivement, c'était
comme le Concorde.
Exactement.
À un autre moment donné.
Donc ne monter à bord que des gens plus ou moins connus, des stars. Là, on avait également Ginette Neveu. Alors je sais pas si vous verrez.
Violoniste.
Voilà une violoniste émérite qui était assez prodigieuse, qui était très jeune, qui est décédée également dans ce crash. D'ailleurs, il n'y a eu aucun survivant. Et donc, c'est assez intéressant puisque dans le bouquin, on raconte donc le crash. Il faut savoir que l'avion s'est écrasé sur une petite île des Açores. Et donc on n'a plus eu aucun contact en fait avec l'appareil pendant toute une nuit. On sait pas trop ce qui s'est passé en fait. Il y avait donc ce qui est bien, c'est qu'il raconte le crash et il raconte l'histoire de tous les personnages qui étaient présents à bord. Donc ça c'est vraiment cool. Il fait vraiment un ping-pong à chaque chapitre entre l'histoire donc de ces gens et le crash. Et donc ce qui s'est passé, c'est que donc cette nuit-là, l'appareil approche de l'endroit où il doit atterrir à la base. On annonce un temps parfait pour l'atterrissage, pas de nuages, il fait beau, etc. Et puis d'un seul coup, le pilote arrive, il doit atterrir, mais à 2 minutes. Et il arrive dans une nappe de brouillard incroyable, il ne comprend pas trop ce qui s'est passé. Et là, le dernier contact avec l'avion... Le pilote dit qu'ils vont atterrir, il lance le train d'atterrissage, etc. Et plus de nouvelles. Et donc, apparemment, il se serait perdu.
J'allais dire pas de nouvelles, bonne nouvelle.
Pas de nouvelles, bonne
nouvelle. Ah bah
non, pas. Ou pas. Et donc,
mais attends,
là,
mais c'est pas le boxeur qui a eu une relation
Cerdan,
avec Edith Piaf,
absolument. Tout à fait, c'était l'amant d'Edith
Piaf. Dans La Môme, on le voit très bien.
On le voit dans La Môme.
Et d'ailleurs, c'est assez difficile.
Mais
parce
il y a eu Edith et Marcel aussi, un film des années 80 qui traitait de cette histoire.
Tout à fait. Et d'ailleurs, petite anecdote qu'on raconte d'ailleurs dans le livre, Edith Piaf avait demandé à Marcel Cerdan de prendre cet avion pour arriver plus tôt parce qu'elle se languissait de lui et donc elle lui avait dit de prendre l'avion au lieu de prendre le bateau et donc Cerdan avait fait un peu chier son manager pour effectivement arriver plus vite et donc elle s'en est voulu constamment et d'ailleurs elle a même après essayé de rentrer en contact avec lui, elle avait acheté un guéridon etc. Ça a été très dur pour elle, elle voulait pas se suicider parce qu'elle avait peur de pas le retrouver, enfin tout ça, c'est voilà, des histoires de superstition, c'est notre débat. Mais voilà, on a l'histoire de toutes ces personnes, donc Cerdan, Ginette Neveu.
Et plein d'anonymes, je suppose.
Plein d'anonymes, effectivement. On a aussi un monsieur dont le nom m'échappe, qui avait contacté, qui s'est occupé du merchandising de Disney, qui avait contacté les frères Disney, qui étaient à la limite de la faillite et qui a tout lâché pour aller les démarcher. Ça a marché pour lui, il était présent dans l'avion. Donc c'est intéressant, parce qu'à côté de l'histoire de ce crash, qui a quand même... comment dire, une partie importante de l'histoire d'Air France. On a l'histoire de toutes ces personnes et c'est vachement intéressant parce qu'on est plongé dans les années 50, hein, puisque c'était en 49. Et donc c'est voilà, c'est hyper intéressant. On a tout le crash, comment ça s'est passé quand on a découvert les débris de l'avion, donc sur une petite île, hein, à côté de celle où il devait passer la nuit, se ravitailler. Donc ils ont heurté, hein, une montagne, évidemment tout a flambé, donc pas de survivants. On raconte voilà qu'on a retrouvé des effets personnels, des billets de banque, des valises ouvertes, des corps. Marcel Cerdan, on a retrouvé son corps avec sa montre, hein, à son poignet avec ses initiales. D'ailleurs, petite anecdote aussi à propos de Ginette Neveu, sa maman n'a pas voulu la reconnaître. Quand on a rapatrié les corps, hein, elle est venue, tous les proches, hein, sont venus pour reconnaître malheureusement les corps. Et elle n'a pas voulu reconnaître sa fille en disant que ce n'était pas elle, qu'elle avait les ongles trop longs et qu'elle se les coupait court justement pour jouer du violon, que ce n'était pas sa robe, qu'elle a porté un pendentif qu'elle ne reconnaissait pas. Puis on a essayé de lui faire entendre raison moult fois. Elle n'a jamais voulu en démordre. Et effectivement, ce n'était pas du tout le corps de Ginette Neveu. Il y avait eu une inversion avec le corps d'une autre jeune femme, une anonyme. Et donc on a retrouvé donc ce corps, on s'est renseigné grâce au pendentif, on a retrouvé donc l'autre jeune femme qui avait déjà été enterrée, donc on a déterré le corps. Effectivement, on a retrouvé Ginette Neveu. La jeune femme avait une robe rouge et Ginette Neveu une robe verte, il me semble.
Bah, nous racontes tout là, hein.
Je vous raconte un petit peu, c'est spoiler. Une anecdote intéressante, ouais, spoiler, c'est un petit peu le, je veux dire, c'est assez connu puisque ça a été même appelé longtemps la malédiction de la robe rouge et verte. Donc voilà, donc on raconte tout ça, tout le crash et l'histoire des personnes qui étaient à bord de l'avion. Et c'est vachement, vachement intéressant de voir que certains de ces destins semblent justement plus ou moins liés. Hein. C'est ce qu'il raconte d'ailleurs derrière quand on lit le résumé. C'est ce qui m'a séduite, c'est vraiment de voir que finalement tous ces destins...
Du coup, t'as lu que le résumé derrière ?
Exactement. Non, j'en suis presque à la fin là. C'est pas très long, hein. Il y a un petit peu plus de 200 pages. Je l'ai littéralement dévoré. Vraiment, c'est très intéressant, c'est très bien écrit. Vraiment, Adrien Bosque, encore une fois, c'est son premier roman. Il a vraiment une belle plume et on apprend vraiment donc plein de choses sur toutes ces personnes, sur le crash. Et voilà, encore une fois, on découvre qu'il y a peut-être tous ces destins qui finalement n'avaient rien en commun. Eh bien, était peut-être finalement lié, encore faut-il croire au destin, mais voilà, en tout cas, je vous le recommande chaudement, c'est super intéressant.
Donc, Constellation d'Adrien Bosque.
Constellation,
c'est
voilà.
Chez vos éditions.
Là, c'est le livre de poche, mais voilà, grand prix du roman de l'Académie française, prix littéraire de la vocation, prix Giron Nouvelles Écritures. C'est voilà, c'est
d'accord.
Un très très beau livre, très intéressant.
Tu nous as bien convaincus. Je pense que ça va être très intéressant. Ouais. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais moi aussi vous donner un petit hors-jeu que j'ai découvert tout récemment, mais c'est sorti sur Netflix depuis mars, à peu près. Ça s'appelle Unbreakable Kimmy Schmidt. C'est une série concoctée par Tina Fey. Alors Tina Fey, vous la connaissez peut-être de tête parce qu'elle se ressemble beaucoup à Sarah Palin et qu'elle en a beaucoup joué. C'était aussi une des actrices auteurs de 30 Rock. Et donc, Unbreakable Kimmy Schmidt, c'est l'histoire d'une jeune femme qui était enfermée dans un bunker avec trois autres femmes pendant 15 ans à cause d'un gourou qui leur a fait croire que c'était la fin du monde. 15 ans plus tard, elle est sauvée par la police et elle décide à 29 ans donc, de s'installer à New York. Alors elle est complètement décalée par rapport à tout le monde, hein. Elle a vécu vraiment dans un monde à part. Et
ça se passe à quel moment, tu dis ?
À New York, ça se passe aujourd'hui, ça se passe de nos jours.
Ah, elle se réveille maintenant.
Elle sort de son bunker.
Elle est d'une naïveté ultime.
C'est fou.
Ouais, elle est,
donc elle n'a pas vu Retour vers le futur ?
Elle n'a rien vu. Et là, les premières choses qu'elle va faire, c'est s'acheter des fringues absolument incroyables, un espèce de gilet jaune flashy, pas possible.
Elle achète des baskets avec
des baskets qui s'éclairent. Alors, dès le premier épisode, on voit...
Ah, t'as la nana de Sex and the City, là ?
Non, c'est pas Sex and the City, elle jouait dans
Melrose Place, McBeal. Non, Ali McBeal.
Ouais, non, la blonde.
Comment dire, c'était Hélène dans Ali McBeal. Et donc, qui va être sa patronne, parce qu'elle va chercher un boulot. Et le hasard, dans cette série qui est complètement barrée, mais alors vraiment barrée, c'est qu'elle va être témoin de vol à l'étalage d'un petit garçon qu'elle va poursuivre deux fois. La deuxième fois, elle va en avoir marre. Elle va décider d'aller le ramener à sa mère. Et justement, la mère va dire, bah parfait, on cherche une nounou, ça tombe bien. Donc vous voyez, ça se fait super rapidement. La mère qui a aussi une histoire incroyable quand on lui demande ses origines dans le deuxième ou troisième épisode. Enfin, c'est complètement barré, quoi. Et surtout, Ellie Kemper qui joue Kimmy Schmidt, elle est juste irrésistible de naïveté, avec toujours son petit sourire, enfin son grand sourire affiché en permanence. Les situations sont complètement dingos.
Parce que sa patronne, c'est une sorte de Desperate Housewife, en fait.
Ouais, mais...
C'est une femme mariée à un homme riche qui l'a délaissé totalement.
Parce qu'elle organise notamment dans le deuxième épisode un anniversaire de son fils, et ça fait deux mois que son mari n'est pas rentré. Elle s'imagine qu'il va rentrer, et puis en fait, bah non, il rentre pas du tout. Et il y a des scènes vraiment mais complètement folles.
Et elle est colloque avec un comédien raté, un peu.
Un chanteur raté qui a passé une quinzaine d'auditions pour le Roi Lion.
Un chanteur abandonné.
D'ailleurs, on verra des scènes de cette audition plusieurs fois. Et justement, avec ce colloque, il y a une scène vraiment qui est incroyable, où il se fait alpaguer par sa proprio qui demande qui voudrait bien avoir un petit peu l'argent du loyer arrivé. Et il l'alpague, il est en super costume et tout, parce qu'il va passer une audition justement. Et la proprio lui dit, ah ouais, mais alors attends, qu'est-ce que tu fais là? Et il lui ment, il lui dit, bah je vais à l'enterrement d'un ami. Il se retrouve à l'enterrement d'un vieux coréen que visiblement il ne connaît pas, et donc ils sont tous les deux en train de regarder d'assister à la cérémonie. Et là elle lui fait, ah tu vas chanter là? Ouais, je vais chanter. Enfin, tu devrais chanter un petit Boys to Men pour lui et tout. Puis il fait, ah ouais c'est vrai, t'as raison, Boys to Men. Et là il chante I Make Love to You, donc il est vraiment pas dans le ton.
Il faut pas oublier non plus que son coloc, il est gay clairement, ouais, il joue vachement sur le côté très efféminé,
exactement,
et très flamboyant du coloc gay, quoi.
Exactement. Et donc c'est une série, j'ai pas encore fini la saison, mais déjà dès le début je peux vous dire que ça me rappelle énormément dans le côté absurde total, ça me rappelle énormément les films des frères Zucker, parce que on se retrouve avec des scènes complètement stupides aussi, avec un moment où le coloc doit ramener un costume d'Iron Man.
Parce que t'as la révolte, tu sais, sur Times Square à New York, t'as plein de gens déguisés avec des costumes miteux, mais pour se faire prendre en photo avec les touristes. Donc t'as Hello Kitty, t'as Iron Man, machin. Et donc son coloc, qui est un comédien raté, et ben il se dit, bon, je vais essayer d'être Iron Man sur Times Square, mais c'est un costume pourrave.
Sauf qu'il veut récupérer sa caution pour justement essayer de monter son propre spectacle. Donc il va essayer de refourguer son costume. Le mec, le proprio, lui dit non. Et il rencontre ensuite dans le métro des mariachis qui lui disent, ah bah attends, t'as essayé de refourguer ton costume? Nous aussi on essaie de refourguer nos costumes pour vivre notre rêve de ne plus être des mariachis. Vous voyez, déjà rien que cette réplique, ça peut être quand elle est interprétée, c'est super drôle. Bah, c'est comme ça pendant tous les épisodes, qui durent environ 20 minutes à chaque fois. Donc c'est pas, ça demande pas la même implication que des séries un peu plus longues.
Et il y a combien de saisons?
Là on est à la première pour l'instant.
Il y en a qu'une,
d'accord. Ouais, et c'est vraiment complètement fou.
Ouais, ça a l'air marrant.
Ouais, et je vous la conseille fortement, encore une fois, sur Netflix. N'oubliez pas Netflix, hein. Un mois gratuit d'abord, et ensuite vous payez. Vous pouvez en profiter là, il n'y a pas de
problème. Surtout, il n'y a pas d'engagement, donc tu peux couper quand tu veux. C'est-à-dire,
exactement,
si tu as envie de te taper toute une saison, tu payes les 8 euros que coûte un mois.
Exactement.
Tu te désabonnes dans la foulée et tu peux te mater toute la saison.
Ouais, on fait beaucoup de pubs pour Netflix, hein, mine de rien.
Bah non, mais moi,
je trouve
que ça fonctionne
bien.
Je trouve que c'est un système justement qui se fout pas trop de la gueule du monde.
Ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc,
contrairement à d'autres.
Unbreakable, Kimmy Schmidt, dont d'ailleurs il faut souligner aussi le générique dès le premier épisode, au moment où elle sort du bunker, et il y a une interview en fait d'un des voisins du bunker qui se transforme en générique, c'est-à-dire qu'il y a vocodeur, etc., etc. Vous comprenez pas grand-chose et c'est très drôle. Voilà. Donc Unbreakable, Kimmy Schmidt sur Netflix. C'était mon petit hors-jeu de la semaine. Merci d'ailleurs pour vos hors-jeux. Au passage, Julo, Carole et Romain, des hors-jeux très intéressants. On peut même refaire un petit tour. Journal d'une disparition, le manga, Constellation. Au livre de poche et
la visual history de Retour vers le futur.
Voilà, ça voilà. Tous les hors-jeux de cette semaine à retenir et que la rédaction vous conseille. Et ben, c'est aussi le moment, jeunes gens, de se quitter. Puisque ce podcast va toucher à sa fin, c'est logique. On a parlé de tout ce dont on avait à parler. Il y avait peut-être des choses à rajouter, non? Vous avez rien à rajouter?
Ah non, en tout cas, je pense qu'il y a une série sur Netflix qu'on va regarder bientôt tous les deux.
C'est vrai? Ah oui, tu penses à la deuxième saison de Fargo?
Eh oui.
On va en parler dans.
Et ils viennent de mettre Friends aussi.
Ah oui, ils viennent de mettre Friends.
Il y a trop de choses.
Ça va être bon, tout ça.
Ouais, mais tout ça, ça fait qu'on lit pas beaucoup. Il y a que Carole qui lit des livres ici.
Des vrais livres, tu vois.
Non, ah bah oui, c'est vrai que c'est pas.
Non, j'ai commencé la lecture du livre sur Yu Suzuki. Ah, voilà. C'est un vrai livre, ça va.
Ouais. Bon. En français, en anglais,
et en français, qui vient de sortir chez Geeksline.
Chez Geeksline, ouais.
Voilà, donc j'en parlerai, je pense, à l'occasion d'un prochain hors-jeu. Ah, même si c'est pas vraiment hors-jeu.
Ah non, c'est pas hors-jeu, c'est droit.
Et tu rigoles, Plumeau, mais ouais. En parallèle à ce livre, en ce moment, je lis l'autobiographie de Daniel Bryan. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ce cher Daniel Bryan.
J'espère que tu vas bien, Daniel.
Et donc, voilà. Et c'est
attends,
très,
j'ai
très
un trou là, c'est le catcheur.
Ouais, c'est le catcheur. C'est le catcheur barbu, ouais.
On connaît ta passion pour les catcheurs.
Bon,
on se refait pas.
Merci Julo, merci Carole,
merci à
Romain,
toi,
je t'en prie.
Pour ce merci, podcast, merci à vous évidemment de l'avoir regardé si vous êtes premium et écouté si vous êtes lecteur plus occasionnel, en tout cas pas premium de Gameblog. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission basée sur l'actualité. Jeux vidéoludiques
pour le coup cette semaine c'était un podcast super visuel entre la guitare de Rock Band, celle de Guitar Hero et tous les bouquins qu'on a montré.
Ça c'est bien, c'est génial,
il y avait des choses à voir, c'était interactif,
ça rafraîchit les podcasts.
Alors n'hésitez pas évidemment comme chaque semaine à nous laisser vos commentaires, à nous dire ce qui vous a plu, s'il y a des remarques sur certains jeux dont nous avons parlé qui vous plaisent ou pas. D'ailleurs vous avez aussi le droit de vous exprimer votre mécontentement, d'ailleurs on vous incite à le faire.
C'était nul, c'était
ne venez pas nous déchirer la chemise, par contre c'est la seule chose qu'on vous demandera. Bref, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là portez-vous bien et surtout jouez bien. Ciao,
salut, salut.
Voyouva,
ciao ciao.